Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 8 novembre de 18 à 21h, en différé jeudi 9, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 0085, par télécopieur au 01 46 51 21 82 et par courrier électronique à contact@radiocourtoisie.com.
Amis de la Résistance, bonsoir. Nous recevons ce soir le premier des résistants. Monsieur le premier des résistants, bonsoir.
Bonsoir.
Bon, je pense que les auditeurs ont reconnu la voix. Bon, on va... Non, ils répondent pas, mais je soupçonne. Autour de cette table pour participer avec moi à l'interrogatoire du suspect, le marquis de... Gilbert, bien entendu. Pardon, Victoria, bien entendu. Jean-Pierre, bon, va savoir pourquoi je l'appelle Gilbert.
C'est comme ça que les résistances sont faites.
Ah ouais, exactement.
Je me fais flinguer la
sortie. Voilà, c'est fini. Tout l'anonymat s'effondre. Donc, Victoria, le marquis.
Bonsoir.
Jean-Pierre Rondeau.
Bonsoir.
Que je vais pas appeler Jean-Pierre Proutot pour
oui,
une fois.
Ni Jean-Paul.
Bon, ni Jean-Paul.
Notre expert financier indépendant.
Voilà. Goffman qui vient de parler. Et puis, vous savez que j'ai inauguré récemment, en recevant Bruno Gollnisch, petite, quelque chose dont j'espère que ça deviendra une petite habitude, qui est de donner la parole à un jeune. Mais je précise, à un jeune étudiant. Parce que maintenant, il faut préciser de quel jeune il s'agit.
C'est un jeune.
Voilà. Aujourd'hui, il y a un journal qui publie une information où il y a encore un jeune qui a fait une couennerie. Et alors, il dit un jeune de 13 ans. C'est intéressant de le préciser parce
précision.
Que si des fois que ce soit un vieux de 12 ans ou de 13 ans. Non, là, c'est un jeune de 20 ans qui est étudiant et qui s'appelle, si je ne m'abuse, Bertrand Villeneuve.
Comment ça?
Ah, c'est pas lui qui a fait la sottise dont vous parlez, là, non?
Non, pas du tout. Non, autrement, il sera en prison. Alors, nous sommes convenus que la chose se passerait de la façon suivante. On va poser des questions auxquelles Jean-Marie Le Pen répondra. Et les auditeurs vont poser des questions. Alors, Jean-Marie Le Pen a accepté un défi qui est de répondre à toutes les questions qui seront posées. Bon, dans la mesure où elles sont décentes, c'est-à-dire si on essaye d'entrer dans l'intimité, c'est autre chose. Mais si c'est décent, toutes les questions. Alors, Victoria entassera les questions, et puis de temps en temps, elle les lira.
On les lira à la queue-leu-leu.
À la queue-leu-leu, absolument. D'abord, il y a trois questions que m'ont posé beaucoup d'amis quand ils ont su que je vous recevais ce soir, Jean-Marie Le Pen. La première question, vous allez être étonné, c'est comment allez-vous ?
Je vais bien.
Oui, ça se voit d'ailleurs.
Je me porte bien.
Je me porte bien. C'était dans quoi ça, je me pense?
Ah, c'était dans l'Abivert.
L'Abivert, ouais.
Ah, c'est l'académicien qui, avant qu'on lui demande des nouvelles de sa santé, pour économiser le temps, demandait les gens en leur disant « Je me porte bien ».
Alors la deuxième question, c'est serez-vous présent au BBR le week-end prochain?
J'espère.
Pour avoir une danse peut-être avec lui, non,
non. Ah, il faut réserver, là, je crois que le...
Ce serait samedi et dimanche.
Samedi et dimanche, bon. Alors je signale que nous aussi, nous y serons.
Ce qu'à Dieu plaise.
Le Libre Journal y sera.
Vendredi, samedi,
vendredi,
dimanche.
Samedi, dimanche. VSD. Le marquis y sera, Goffman y sera, et Jean-Pierre, vous y serez aussi. Vous tenez un petit stand de conseil financier.
Conseil financier, non, non.
Il n'y a
je serai que vendredi, je dis ça pour mes admiratrices.
Oui, venez le voir. Ah, puis en plus, alors on va le dire quand même, on va dire le grand secret.
Mais j'irai vous rendre visite.
Vous savez que j'avais invité récemment un peintre que vous connaissez, je crois, Jean-Marie Le Pen, qui s'appelle
Barbara Ivanov.
Barbara Ivanov. Oh,
beaucoup d'admiration pour lui.
Magnifique peintre. Et quand il a vu le marquis, il s'est dit, il faut absolument que je le portraiture.
Et c'est fait.
Et il a fait un portrait qui sera exposé soit au stand...
Aux deux.
Soit
deux,
à son stand.
Chez lui et chez vous.
Et voilà. Alors, et vous allez voir, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire.
Ah, tableau. Il est bon.
Voilà.
Et ça pour son épouse aussi, d'ailleurs.
Oui, elle a fait un très, très joli portrait d'enfant. Joli portrait d'enfant.
Vous avez déjà votre billet, vous, Jean-Pierre?
Ah, c'est bien.
Moi, je vais essayer de rentrer à l'œil. Comme journaliste, il paraît qu'on peut s'arranger. Mais enfin, on verra.
On va pas mégoter. Non,
allez. Non, bon, allez. Victoria, vous n'y serez pas, vous?
Moi, je suis grabataire.
Victoria Cristal.
Voilà.
Chez les Indiens, on l'aurait appelé os de cristal. C'est joli, os de cristal.
Il faut que je fasse attention à mes petits os. Vous avez raison.
Et alors, la troisième question, qui est plus sérieuse que toutes les autres...
Serge, ne quittez pas le sujet, donnez-nous donc l'heure exacte, enfin les dates, et puis le lieu.
Tout ça, ah bah, le lieu, c'est le parc des expositions de Paris-le-Bourget.
Eh ben voilà.
On y va par le RER B au Bourget, et il y a des navettes gratuites à la gare du RER.
Voilà. Et on peut y aller par en automobile à pétrole aussi, par l'autoroute A1, sortie.
Il y a beaucoup de parking.
C'est un parking immense.
Voilà. Grand comme un terrain d'aviation.
Bon. Bon, même, oui,
comme qui dirait.
Les portes ouvrent à quelle heure? C'était la question.
Alors, les portes.
Cher Victoria.
Je ne sais pas.
Ça que
qui
sait, à quelle heure?
C'est écrit sur votre billet, Jean-Pierre, au moins.
En s'y mettant tous, on va y arriver.
Parce que j'ai apporté toute une documentation, mais.
Pas d'heure.
On a un militant qui a acheté sa vignette.
Non, c'est autre chose.
Ça ne doit pas commencer très très tôt, non?
Non, ça, je pense que ça commence vers midi. En début d'après-midi, non? Oui. Ah ben voilà. Non, ça c'est pour les exposants, oui. Bon, disons vers midi, quoi.
Voilà. Hein, voilà. On arrive, on mange des huîtres et après on se promène.
C'est ça. Voilà. Bien, et puis alors, troisième question qui est quand même la plus importante. Les signatures.
Ah oui, ça.
Les signatures de maire. Alors, où en sommes-t-on?
Les signatures de maire ne se portent pas mal, mais elles pourraient se porter mieux. Car il y a, semble-t-il, un certain nombre de gens qui n'ont pas désarmé depuis 2002. Vous vous souvenez sans doute le rôle qu'avait joué le secrétariat général de l'Élysée, alors conduit par M. de Villepin, M. de Saint-Cernin et quelques autres, qui est une officine de pouvoir très redoutable, très ignorée du grand public. C'est un des plus grands ministères, mais il ne porte pas ce nom. Surtout quand le président a l'intention de gouverner certains secteurs. Alors M. de Villepin a déclaré l'autre jour, Le Pen n'aura pas ses signatures. Alors, il aurait pu dire, je crois savoir qu'il ne les aurait pas ou qu'il aurait de la difficulté à les avoir, puisque nous sommes encore à 4 mois du dépôt. Non, il a déclaré que je ne les aurais pas. Alors, je voudrais lui poser la question par votre intermédiaire, qui nous donne quelques explications sur le sujet, car c'est une confidence qu'il a faite au Nouvel Observateur et sur lequel, je crois, ratiocine ou glose le canard enchaîné de cette semaine. Publicité non payée, je tiens à le dire. Mais enfin, je crois savoir, oui, il y a quelque chose.
Si vous n'avez pas lu le canard enchaîné en question, Président, ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous, parce que M. Sarkozy, qui a certainement plus d'influence auprès des élus UMP, puisqu'il en est le président, que M. de Villepin, vient de découvrir qu'il aurait intérêt, lui, personnellement, à ce que vous ayez vos signatures. Je sais que vous lisez, par contre, de très près le Libre Journal imprimé. Serge de Bekech révélait il y a 3 mois... que Sarkozy non seulement donnait des consignes aux maires de la majorité, comme dit le canard enchaîné pudiquement, mais exerçait des pressions et des menaces invraisemblables sur tous les maires dans leur ensemble, menaces de retrait de subventions, pour qu'ils ne vous donnent pas leur signature. Or, explique le canard enchaîné d'aujourd'hui, il aurait découvert, je cite, que cela laisserait 15 à 20% d'électeurs en jachère, ce qui est très flatteur pour vous, et surtout que ça pourrait lui coûter son élection parce que, pense-t-il, vous feriez voter contre lui au deuxième tour. C'est une bonne nouvelle, non?
Si j'étais un des membres de l'établissement UMPS, que ce soit l'un ou l'autre, je m'efforcerais de pousser au maximum la candidature de Le Pen, puisqu'aussi bien il est apparu au moins en 2002, mais on ne sait jamais, ça peut ne pas se recommencer, qu'il est la garantie du succès absolu de deuxième tour. S'il est là, Chirac a fait 82%, alors on peut, tous les espoirs sont permis. Alors moi je ne saurais trop encourager mes concurrents futurs dans cette voie, car à tout risque, je crois que c'est un risque qu'on peut prendre pour eux. Bon, pour ma part, j'ai mis en place un système, enfin nous avons mis en place, je ne suis pas seul, Dieu merci, en place un système qui consiste à une prospection téléphonique, qui fait une sélection d'un certain nombre de maires, ceux qui disent non, ce salaud-là, jamais, bon, cela, on ne va pas les visiter, et il en reste un certain nombre d'autres qui vont entre oui, peut-être, je ne dis pas absolument non, et ces gens-là sont démarchés par nos militants, nos élus, et nos responsables. Cela dit, nous sommes un parti de bénévoles, par conséquent, ces gens-là ne peuvent rencontrer les maires qu'en dehors de leur travail. Et en plus, ça demande beaucoup de temps, ça coûte très cher, parce qu'il faut se déplacer, quelquefois faire des centaines de kilomètres, le maire n'est pas là, il faut revenir, puis en plus, je crois que les maires ne sont pas très mécontents qu'on vienne les voir plusieurs fois, je pense que ça les flatte, etc. Et surtout, je crois que beaucoup d'entre eux ont peur. Peur pas seulement des pressions qui viennent du pouvoir, et qui se peuvent toucher la Légion d'honneur, je ne sais quelle promotion dans je ne sais quelles circonstances, mais de ce que M. Cambadélis avait joyeusement appelé le harcèlement démocratique, qui consiste à vous jeter des pierres, à taguer vos murs, à vous insulter dans la rue, etc., comme ils le font généralement dans les meetings ou réunions que nous organisons. Alors, il y a beaucoup de maires qui sont sensibles à ça, y compris aux coups de téléphone qu'on donne la nuit à Mme le maire pour lui annoncer qu'on va la sodomiser, tuer ses enfants, mettre le feu à la maison, etc., etc. Bref, alors il y a un certain nombre de gens qui ont peur, ben, il y en a toujours, il y a un pourcentage, et puis il y a un certain nombre de gens qui sont courageux, qui ont le sentiment du devoir que leur fixe la loi, à savoir parrainer des candidats en dehors de tout choix politique, mais qui présentent des caractères de sérieux. Alors, je crois être un candidat sérieux, puisque j'ai trois fois fait plus de 15%, et que la dernière fois, j'ai été au second tour. Alors, je crois qu'au fur et à mesure que le temps passe, eh bien, nous ramassons, nous récoltons, nous grappillons un peu comme les glaneuses, n'est-ce pas, de millet, et ce qui tombe de la table des puissants, car les puissants, eux, n'ont pas de problème. Ils appuient sur un bouton, et ils ont 500 maires. Et alors, vous avez vu quelque chose que je me permets de signaler à vos auditeurs. C'est l'infamie habituelle, d'ailleurs, à cette officine politicienne qu'est le Conseil constitutionnel, présidé par M. Mazot. C'est qu'il a semblé répondre aux critiques qui étaient faites au système en supprimant la publication au-delà de 500. Eh bien, que les gens sachent bien que cette disposition n'est pas favorable aux candidats indépendants. Cependant, elle est faite pour masquer la manœuvre que font les grands candidats, comme l'avait fait Chirac en 2002, à savoir essayer d'assécher le marigot, comme l'on dit. Chirac avait demandé à tout le monde, y compris à moi. J'aurais pu être le parrain de Chirac, vous vous rendez compte? Il aurait pu être mon filleul. Alors, je n'ai pas donné mon parrainage, bien sûr, je me suis réservé à moi, je n'en avais pas tellement que ça. Et donc, c'est pour masquer cela. Il en avait eu 6000 et quelques, je crois. Ouais. Et comme les maires ne peuvent signer qu'une seule fois, il est bien évident que les grands candidats qui essayent d'obtenir, ou les petits qui sont chargés eux aussi, de faire la petite collecte, d'en prendre 30, 50, 100, eh bien c'est autant qu'ils sont retirés de la capacité de parrainage général. Et c'est pas si simple. Pardon d'avoir été long.
Non, mais c'est extrêmement intéressant. De toute façon, c'est intéressant parce que Dans l'hypothèse où toutes ces manœuvres aboutiraient à une procédure qui ne vous permettrait pas d'être candidat au premier tour, les conséquences en sont totalement imprévisibles.
Oui,
parce qu'on peut avoir un effondrement.
Mais je les connais. Vous savez, quand Monsieur Juppé est élu triomphalement, dit la presse, entre guillemets, par un Bordelais sur quatre, je me dis que s'il y avait eu 5% d'électeurs aux urnes à Bordeaux, si Monsieur Juppé en avait eu 3 sur 5, il aurait considéré qu'il était brillamment élu.
Oui, bien sûr.
Ce que je crois le plus grave, c'est qu'il se débarrasse de moi. Parce que s'il se débarrasse de moi, il y a des choses qui seraient dites à la télévision sans qu'on puisse les occulter et qui ne seront pas dites par un accord. Par une convention commune de tous ceux qui sont collectivement responsables de la situation dans laquelle se trouve le pays.
C'est un proche de M. Sarkozy, Hervé Novelli, qui a parlé de séisme le premier, pour le cas où vous ne pourriez pas être candidat, sur la chaîne parlementaire le 3 novembre. Je donne des références précises au cas où on penserait qu'on lance des mots en l'air.
Il faut dire que M. Novelli est un madeliniste et il est un petit peu plus lucide que ne le sont généralement les députés UMP.
Alors, maintenant, pour ne pas quitter ce terrain, j'aimerais avoir votre opinion sur le raffut médiatique qui est fait autour de la petite comédie socialiste.
Et bien sûr, l'argument que peuvent développer les médias dans ce cas, c'est de dire, écoutez, les socialistes sont assez adroits pour créer l'événement médiatique, eh bien nous allons là où il y a un événement. On est trop content de pouvoir remplir nos écrans ou remplir nos colonnes avec de la matière, on n'est pas toujours dans cette situation-là. Par conséquent, les socialistes ont eu cette habileté qui a son revers, parce que la démonstration de leurs oppositions n'est pas faite non plus pour renforcer l'électeur socialiste moyen dans son intention de voter pour un candidat socialiste. Mais il est évident qu'il y a une convention admise, c'est que ces gens-là ont le droit d'être en permanence à l'écran. Je voudrais vous signaler, non pas un sondage, mais un compte-rendu qui a été fait, je crois, dans le journal Télérama, publicité non payée, mais l'article est intéressant. Car il relève le nombre de passages à l'antenne, c'est-à-dire aux 20 heures, au pluriel, aux 20 heures des grandes chaînes, depuis le mois de janvier jusqu'au mois d'août. Alors pour vous donner un ordre de grandeur moyen, Sarkozy y est passé 176 fois, a été cité 176 fois, Bérou 44 fois, Le Pen 4 fois. En 8 mois, voilà. C'est tout vous dire. À partir de cela, vous comprenez mieux comment fonctionne la démocratie médiatique, qui est un totalitarisme masqué, mais très élégamment masqué, comme une chèvre qui aurait du rouge à lèvres. Quand
même. Mais il y a une chose qui est moi qui m'amuse beaucoup en ce moment quand on voit les trois candidats socialistes s'affronter, c'est que. On voit bien que tout ça boxe pas dans la même catégorie.
Non.
Enfin, c'est extraordinaire. Ne serait-ce qu'hier soir, tout le monde a glosé sur l'incompétence ahurissante de Ségolène, qui commet une erreur que même moi j'aurais pas commis. Quand on l'interroge sur le nucléaire, elle répond sur le nucléaire en considérant que le nucléaire civil et le nucléaire militaire c'est la même chose. Donc c'est quelqu'un qui ne sait pas.
Elle court dans la catégorie nunuche.
Nunuche.
C'est une catégorie spéciale. Spécialement conçu pour elle.
Et en face d'elle, il y a Monsieur Strauss-Kahn et Fabius. Je dois dire que moi, je suis pas du tout socialiste. Dieu sait que je suis pas socialiste, même si je suis national. Mais j'ai très envie.
Je
crois que je voterais Fabius si j'étais obligé de choisir.
Ah bon? Oui, à tout prendre.
À tout prendre, c'est quand même celui qui est le plus respectable.
Honnêtement, c'est celui qui est le plus propre sur lui.
Voilà, c'est ça. Bon, on vient de lui rendre un grand service.
Oui, voilà.
Merci, Jean-Marc, le fait d'avoir apporté votre soutien.
Non, ça va faire du bruit.
Voilà, ça, demain, le soutien Fabius.
Pauvre Fabius.
Ça, c'est pas mal.
Envoie ton chèque, envoie ta cotise, Laurent.
Ça, il n'y a plus qu'à lui envoyer le parrainage. Vous êtes bien sur Radio Courtoisie.
Est-ce que vous pensez que, cette fois-ci encore, les écologistes vont compter pour quelque chose ?
Écoutez, l'écologisme verdâtre est une escroquerie de grande dimension. Car l'écologie, c'est une philosophie de droite. Je dirais même une philosophie conservatrice et même réactionnaire, puisqu'elle met en cause le substrat de l'idéologie de gauche, qui est l'admiration du progrès et la certitude que ce progrès technique, économique, va amener une situation de bonheur à la société. Et l'écologie telle qu'elle fut fondée par le docteur Carrel, Alexis de son prénom, et le docteur Carton, entre les deux guerres, établissait le rapport d'harmonie incontournable qui existe entre l'homme créature, n'est-ce pas, terrestre, et la nature qui l'entoure, qu'elle soit de faune ou de flore. Et cette philosophie a été escroquée, enchloussée, pourrait-on dire, par les Verts allemands, les Grünen, qui étaient au départ une officine de propagande dépendant directement du KGB soviétique, chargée d'organiser la lutte contre la bombe atomique américaine, bien sûr, pas la bombe atomique soviétique.
Non, parce qu'elle est propre.
Et puis, petit à petit, ils sont insérés dans le corps politique allemand. Ils ont étendu leurs activités à l'environnement, dont ils sont devenus, par une espèce d'accord commun de tous les partis, on leur a laissé une épicerie. Quoi, voilà, ça, c'est cette partie-là qui n'intéressait pas beaucoup les grands partis politiques. Eh bien, on l'a laissé aux Verts, qui l'ont fait prospérer. Cependant, en oubliant la partie que moi je crois la plus essentielle, et je dirais même électoralement, politiquement la plus essentielle, c'est la défense des animaux, qu'assure bénévolement et en dehors de toute politique notre amie Brigitte Bardot. Parce que je crois que les animaux jouent dans la société humaine un rôle capital. Je ne parle pas seulement de ceux qui servent à nous nourrir, et pour laquelle Brigitte Bardot a fait beaucoup contre les souffrances imposées à ces animaux dans les transports, dans les abattoirs, etc., etc. Elle a fait avancer beaucoup la question, mais dans la compagnie. Parce qu'il faut savoir qu'en France, il y a 19 millions de solitaires, de gens qui doivent se regarder dans la glace et qui n'ont personne à qui se confier, aucune personne sur qui fixer leur affection, et que très souvent leur animal, comme leur animal domestique, joue ce rôle-là, et qui est un rôle très important et dont on ne peut pas qu'on ne peut pas négliger. Alors les Verts n'ont pas cette fibre-là, c'est trop humain, d'ailleurs ça s'intéresse beaucoup plus à nous expliquer pourquoi la Terre se réchauffe, etc. Alors que, permettez-moi cette confidence, il y a 50 ans que moi je sais qu'il y a dans le midi de la France ce qu'on appelle la barrière de chaleur, qui est une barrière qui remonte d'un kilomètre par an, exactement d'ailleurs à la même vitesse que le Sahara, ce qui prouve que probablement l'origine doit être sur l'axe de la Terre, car il suffit qu'il bouge de quelques millimètres pour que cela entraîne un certain nombre de conséquences. Par conséquent, je ne sais pas si ce sont les industries qui ont déclenché les catastrophes qu'on nous annonce, mais on ne rentre jamais d'ailleurs dans cette catégorie. La respiration de 7 milliards d'hommes, n'est-ce pas, qui est créatrice de CO2, ainsi que les cheptels qui s'y rattachent, alors qu'il n'était il y a 100 ans que 1 milliard. Bon, entre autres. Alors, quoi qu'il en soit, c'est leur bureau de tabac, et moi je crois que nous ne devons pas les leur laisser. L'écologie, c'est une chose très importante, en effet. C'est le rapport d'insertion de l'homme dans la nature terrestre, et je crois que ça, c'est assez ceux qui justement la défendent contre les excès du progrès industriel, technique, nucléaire et autres.
Je crois, Président, qu'ils ne tiennent pas trop à ce qu'on leur laisse. On n'a qu'à voir l'attitude de Dominique Voynet pendant la dernière catastrophe pétrolière sur les côtes de Bretagne. Elle n'a pas jugé bon de rentrer de vacances. Elle se bronzait à La Réunion. Elle n'est pas rentrée. Et quand les paysans ont envahi son ministère, vous savez ce qu'ils ont découvert dans ces tiroirs? Du champagne et des préservatifs.
Ah, tiens, c'est pour des petites soirées, ça.
Je me souviens qu'en 74, c'était votre première participation, si je me trompe. Non, c'est pas 74, première participation.
Oui, la première participation, mais je dois dire que j'ai fait mon expérience d'abord en étant le secrétaire général et créateur du comité TV en 65. Mais, en 63, exactement.
À l'époque.
Donc une longue expérience de la campagne présidentielle.
Mais à l'époque, donc je crois bien que c'était en 74, RTL avait organisé des entretiens, enfin des interviews de chacun des candidats par des représentants des autres candidats, enfin par des journalistes ou des intervieweurs nommés par les, désignés par les autres. Et vous m'aviez demandé d'aller interviewer Dumont, René Dumont.
René Dumont.
Et j'avais provoqué une stupeur, mais terrifié des gens, mais vraiment ils étaient pétrifiés d'horreur quand j'ai dit mais monsieur Dumont vous êtes d'extrême droite, car il faut bien reconnaître une chose, c'est que l'écologie est une donnée, est un concept d'extrême droite. Et là il était resté absolument pétrifié, lui.
C'était un ami intime de Fidel Castro. Et alors voilà, vous l'avez sûrement beaucoup froissé.
Mais non, mais je suis certain.
Vous savez que monsieur Hulot se tâte.
Oui c'est ça.
Bien qu'il,
mais pour l'instant il y a une vacance.
Eh bien monsieur Hulot annonce qu'il va peut-être être candidat, etc. Et il a envoyé à tous les candidats son ouvrage, un livre de plus d'ailleurs, à lire, mon cher. Nous en sommes accablés, il faut le dire, avec une brochure, enfin un prospectus. Il s'adresse aux candidats. Et alors, il y a une bande photographique où il y a une dizaine de candidats. J'ai noté que je n'y étais pas.
Allons bien.
C'est quand je ne fais pas partie des préoccupations de M. Hulot. Et si M. Hulot veut bien se présenter comme candidat écologiste, pourquoi pas ? Il vaut bien Voynet, après tout.
C'est plutôt flatteur, parce que ça tendrait à prouver que vous ne posez pas de problème écologique. Non, j'ai remarqué autre chose, c'est que chaque fois que dans un journal, mais ça c'est une vieille histoire, je le dis pour mémoire, chaque fois qu'il y a un trombinoscope des candidats, on les voit tous avec la banane, le seul qui n'a pas la banane et dont on choisit une photo généralement extrêmement peu avantagée, c'est Jean-Marie Le Pen.
Il faut dire d'ailleurs que je crois que c'est Duhamel qui a fait comme ça les 14 photos, il avait simplement oublié Ségolène Royal.
Oui.
Ça, et moi j'étais le seul qui faisait la
gueule.
Les 13 autres souriaient. Moi, j'étais le seul.
Quand même, être au cri des journalistes, les deux dernières unes que vous avez faites, l'Express et du Point, sont quand même des photos relativement plaisantes.
Mais il y a eu un tremblement de terre, il s'est passé quelque chose.
Bien sûr, ça évolue beaucoup.
Et justement, puisqu'on parle de ça, enfin,
il y a des messages quand même.
Oui, on va donner la parole tout de suite.
Ça, c'est pas une surprise.
Aux auditeurs qui nous écoutent, comme j'ai entendu le dire tout à l'heure. Parce qu'il y a les auditeurs qui nous écoutent, puis il y a les auditeurs qui nous écoutent pas.
Il y a ceux qui nous entendent aussi, c'est une troisième catégorie.
Ils ne nous entendent pas aussi. Ils voudraient bien, mais enfin bref. Et je voudrais vous interroger sur l'Internet, et notamment sur le rôle que vous attribuez à l'Internet dans le travail de libération de l'écrit et de la pensée. En fait, est-ce que vous croyez vraiment que ça peut être un outil de libération de la pensée ?
Oui, je crois que c'est un instrument qui fait gaspiller beaucoup de temps, mais qui permet de contourner les censures qui sont communes à tous les autres instruments de communication. Et surtout quand on n'en a pas, comme nous avons nos quelques petits journaux, vous savez bien, quelques journaux amis, appelés la presse amie, mais ça ne fait quand même que quelques centaines de milliers, dans le meilleur des cas, de lecteurs, alors que la télévision, ben, ce sont des millions de téléspectateurs, quelquefois plus de 15 millions, et les auditeurs, il en est de même, et puis la presse écrite, dans toutes ses formes, hebdomadaires, mensuelles, quotidienne et autres techniques, bref. Et donc, je trouve que ce moyen que nous avons essayé, nous, de développer, qui n'est pas le plus coûteux, loin de là, eh bien, permet, je sais que, par exemple, au front, Alain Vizier me l'a confirmé, nous avons environ 20 000 communications sur notre site par jour. Pour vous donner un chiffre amusant, parce qu'il avait stupéfait les gens qui nous avaient invités, qui étaient, c'était pas Wanadou, c'était c'était free quelque chose. Nous j'avais fait en ce qu'on appelle les chats, j'avais appris d'ailleurs à cette occasion la signification de ce mot, 250 000 communications. Et comme elles sont payantes, eux, ils étaient fous de joie. Ils n'avaient jamais imaginé une chose comme ça. Mais ça montrait une grande curiosité, en particulier des jeunes qui surfent, comme on dit, sur le web et qui ont du temps à passer. Ils ont du temps à perdre, peut-être pas à perdre, mais en tous les cas à passer là-dessus. Moi, je crois que ça... Et les Républicains, je crois, aux dernières élections présidentielles américaines, avaient dit qu'ils attribuaient à l'utilisation très active qu'ils avaient faite du net, ils estimaient que c'était une des raisons de leur victoire. Alors, écoutez, j'en accepte l'augure.
C'est le moment, Serge, de signaler, de rappeler que nous sommes audibles dans le monde entier sur radiocourtoisie.com et que cet entretien, notre entretien actuel, pourra être écouté, sera rediffusé en permanence sur francecourtoise.info.
Et sur le site du FN. Aussi.
Alléluia.
Oui, j'évoquais la question de l'ascenseur, parce que je suis tombé sur un truc très drôle dans le Figaro du 27-10. Alors quand il y a un truc drôle dans le Figaro, faut le signaler quand même, c'est assez exceptionnel pour être dit, et qui m'a rappelé une mésaventure qui m'est arrivée il y a 3 ou 4 ans, où j'avais été pris au collet par le CSA, parce que j'avais dit que si les femmes musulmanes sont obligées de se voiler, c'est parce que de se bâcher, avais-je dit, ce qui était considéré comme tout à fait désobligeant, ce n'était pas fait pour être obligeant d'ailleurs, il faut bien le dire, et c'était parce que les hommes musulmans, certains hommes musulmans, islamistes, extrémistes, etc., étaient un peu portés à laisser leur libido se manifester en face de cet étalage de viande.
Oh.
C'était horrible. Alors j'ai été fessé d'abondance. Ah oui, absolument. J'ai été fessé d'abondance par le CSA. Et alors je lis ça dans le Figaro. Le cheikh Taj al-Din al-Hilali, dans un prêche du mois de Ramadan tenu à la mosquée de Sydney et tout juste rapporté par le journal The Australian, a soumis ses fidèles à cette indigeste pensée. Deux points, ouvrez les guillemets. Si vous placez de la viande dans la rue, dans le jardin ou dans un parc sans la couvrir et que les chats viennent la manger, qui doit en blâmer, les chats ou la viande?
Ah. Donc, c'est pas celui qui est abonné au Libre Journal.
Mais justement, je vais demander à ma petite femme de vérifier. Chérie, puisque tu nous écoutes, est-ce que tu peux vérifier si le cher Taj al-Din al-Hilali reçoit le Libre Journal? J'en doute, parce qu'en Australie, on n'a pas beaucoup d'abonnés. Mais on peut vérifier ça quand même. Tout ça pour dire que finalement, il y a des idées comme ça qui courent et nous, les journalistes, on n'est pas autre chose que des promeneurs armés de filets à papillons. On attrape les idées.
Des ramasse-miettes.
Oui, c'est ça. Et encore. Il y a une autre question que je vais vous poser sur le comportement de... Votre opinion à propos du comportement actuel de l'État en tant que système de... d'organisation de la paix publique. D'ailleurs, on a l'impression que, aussi bien en ce qui concerne les émeutes tribales dans les banlieues, qu'en ce qui concerne la circulation automobile, ou le permis à points, par exemple, on a l'impression que c'est des gens qui reculent sans arrêt. Quand ils arrêtent des manifestants ou des émeutiers, ils s'arrangent pour les libérer. Quand ils peuvent, ils s'arrangent pour qu'on n'en parle pas dans la presse. Exemple, ce qui s'est passé au métro Marcadet, c'est quand même une chose absolument ahurissante. Enfin, il a fallu 5 jours pour que la presse ose en parler, à l'exception du Parisien qui avait fait un petit papier. Il y a une centaine de jeunes, alors de jeunes probablement de 12 à 20 ans, qui sont descendus dans le métro et qui ont littéralement terrorisé un métro entier. Des gens foutent en camp, en abandonnant sur place les téléphones portables, les MP3, les portefeuilles, les porte-cartes, etc. Et tout ça n'a pas été indiqué, n'a pas été raconté. Donc on a l'impression que...
Le bilan, Serge, c'est 12 interpellations,
voilà, 12 interpellations,
5 jugements. Mais permettez-moi d'ajouter une excuse, c'est leur ministre, Azouz Bongag, qui leur avait dit il y a quelques mois de passer le périphérique et de casser les portes des Gaulois.
Alors, quelle explication avez-vous, trouvez-vous à cette attitude de recul? Parce que c'est incompréhensible en période électorale comme ça.
Il y a un adage qui dit, en politique, il n'existe que ce qui paraît exister. Par conséquent, il tire la conclusion que si ça, ça n'a pas l'air d'exister, ça n'existe pas. Voilà. Ah, il suffit de ne pas en parler et ça n'existe pas, et c'est ainsi qu'il est occulté à l'opinion tout ce qui, que selon l'opinion courante de M. Rioufol, qui pourrait servir à Le Pen, n'est-ce pas? Car M. Rioufol écrit, excusez-moi de citer un de vos confrères, mais il écrit des choses qui ressemblent étrangement à ce que dit Jean-Marie Le Pen, mais il précise toujours qu'il ne faut pas que ça serve à Le Pen ou aux extrêmes, n'est-ce pas? Alors en l'occurrence, je crois que si les Français savaient la vérité, eh bien, ils chasseraient à coups de bottes dans les fesses les gens qui, après leur avoir demandé l'honneur de les représenter et de les défendre, être payés pour le faire, ne le font pas. Et font exactement l'inverse. Alors moi, j'avais noté une chose pendant les émeutes de, il faut bien appeler ça les choses par leur nom, de novembre. Il y avait eu 244 blessés, tous policiers. J'en avais tiré la conclusion que les policiers n'en avaient blessé aucun de ces émeutiers. Et s'ils ne l'avaient pas fait, c'est sans doute qu'ils avaient été missionnés pour ne pas le faire. Ils avaient les bâtons trop courts, les flashballs bloqués. Quoi qu'il en soit, on n'a pas opposé à ce délire juvénile et coûteux, n'est-ce pas, la répression élémentaire que pratiquaient quand j'étais étudiant les flics du 5e.
À coup de pèlerine.
À coup de pèlerine lestée, n'est-ce pas, en nous embarquant dans des cars dont on nous libérait le lendemain matin, un peu penaud. Eh bien, ça n'a pas été fait. Et je me perds en conjecture sur les raisons qui ont poussé à ne pas le faire, à moins d'admettre que là aussi, chez les Américains, il y avait zéro mort, paraît-il. Alors, au ministère de l'Intérieur, c'est zéro blessé. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Malek Houssekine, parce qu'il y avait un malheureux qui aurait dû d'ailleurs être plutôt dans son lit en train de manifester au quartier latin, qui aurait été, qui serait mort des conséquences des bousculades nées de ces manifestations. Il est bien évident que malheur au peuple dont les chefs ont des mains de beurre, n'est-ce pas, ont les mains molles. Rien de pire ne peut arriver à un peuple ou à un pays que des dirigeants qui ont les mains molles ou la cervelle molle, ça qui revient au même. Il faut savoir que la responsabilité politique, ça implique des prises de responsabilité, ça implique une prise de conscience d'abord et des décisions qui sont difficiles et qui engagent en effet votre responsabilité morale et humaine. S'il y a des gens qui ne veulent pas faire cela, eh bien ils sont libres de ne pas le faire. Mais à partir du moment où on accepte cette tâche qui est honorable et redoutable, eh bien on l'assume. On l'assume et on prend les responsabilités. Moi, je dis franchement, on me dit, mais qu'auriez-vous fait, vous, monsieur Le Pen? Moi, j'aurais dit, écoutez, je comprends très bien que les jeunes gens, de temps en temps, aiment se défouler. Et au quartier latin, on a aussi quelquefois lancé quelques tomates sur nos braves bleus. Bon. Vous faites ça depuis 48 heures, c'est terminé, hein, jusqu'à demain matin, je donnerai l'ordre de vous triquer, voilà, et de vous retirer de la circulation, la récréation est terminée, voilà. Eh bien, ça n'a pas
été... C'est assez gaulien comme attitude.
Oui, hein. Bon, écoutez, il n'avait pas que de mauvais côtés, quelquefois d'ailleurs, nous l'avons mesuré à nos dépens.
Oui.
Nous avons à l'époque interviewé des policiers sur place, dans les manifestations et dans ce studio, et ils nous ont tous dit très clairement qu'ils avaient des ordres pour ne pas intervenir. Ce qui explique les scènes, par exemple, des Invalides, où une jeune femme a pu être traînée par les cheveux, dépouillée d'à peu près tout ce qu'elle possédait, à quelques mètres de la police, l'arme au pied.
Oui. Bah écoutez, quelquefois ça s'est passé aussi en Algérie, hein.
Le 5 juillet,
on a torturé sur les quais d'Oran des dizaines de harkis sous les yeux de militaires français qui avaient aussi l'ordre de rester l'arme au pied et qui malheureusement souvent le sont restés.
Alors on va donner maintenant la parole, puisque Victoria me fait savoir qu'il y a beaucoup de questions, je le vois d'ailleurs, mais beaucoup de questions intéressantes en plus. Non seulement elles sont nombreuses, mais elles sont intéressantes. Ah, bah c'est bien. Vous n'êtes pas des magots.
Ça n'a rien d'étonnant, puisque vous écoutez Radio Courtoisie.
Alors, que pensez-vous faire en direction de Philippe de Villiers pour concrétiser l'union des patriotes? Et qu'attendez-vous de lui en échange?
Je ne pouvais pas rien faire d'autre que de lui tendre la main, comme a d'ailleurs à tous les patriotes français, j'ai bien précisé, de quelque origine qu'ils soient, puisque dans notre société, dans notre morale à nous, nous acceptons le repentir et nous acceptons le droit à l'erreur et nous savons passer l'éponge quand il s'agit de l'intérêt supérieur de la patrie et de l'intérêt supérieur de la cause nationale. Alors, moi j'ai invité M. de Villiers, mais comme les autres, pas spécialement lui, à se ranger derrière la stratégie de l'Union patriotique qui comportait, bien sûr, je dois dire, c'était un peu sa faiblesse à son égard, ce qui comportait de soutenir la candidature de Le Pen à la présidence de la République, qui semblait être le candidat le mieux placé pour ce faire. Bon, et puis qui impliquait qu'aux élections législatives, on trouve des accords qui permettent d'espérer, malgré ce mode de scrutin scandaleux, qu'est le scrutin majoritaire, celui des bourg-pourris, comme on disait en Angleterre, eh bien d'avoir des élus et de se faire entendre de l'opinion. Encore que ce ne soit pas de la panacée, bien évidemment, le pays est dans une situation telle qu'il ne suffirait pas d'avoir un groupe parlementaire, même important, de nationaux, pour que la situation soit réglée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je propose de recourir aussi souvent qu'il sera nécessaire au référendum, de telle manière que les décisions politiques prises par le peuple est une légitimité que non plus les décisions des assemblées parlementaires, et de façon à pouvoir imposer aux minorités, fussent-elles turbulentes ou fussent-elles résistantes, la volonté de la majorité des citoyens pour se sortir d'une situation dramatique. Alors, je ne pouvais pas lui faire plus que cela, je l'ai fait, ma foi.
Vous étiez en Vendée il y a une quinzaine de jours et toute la grosse presse s'est récriée Le Pen marche sur les terres, pour ne pas dire sur les pieds de Philippe de Villiers. Moins, plus sérieusement, est-ce que ça faisait partie de la stratégie dont vous parliez à l'instant, et considérez-vous que l'union est un combat, comme on dit à gauche? Est-ce que vous avez voulu faire pression sur le vicomte en profitant du fait qu'il est en panne dans les sondages?
Non, à proprement parler, d'abord moi je vais sur toutes les terres de France. Hein. Les terres de France ne sont à personne en particulier, et pas plus à Philippe de Villiers qu'à quelqu'un d'autre. Bon, non, j'avais choisi d'aller en Vendée parce que ça faisait pendant à la démarche que j'avais faite à Valmy, n'est-ce pas ? Et pour bien montrer qu'à mes yeux, l'histoire de France était un tout qui n'excluait ni la fidélité monarchique et chrétienne des Vendéens, ni non plus l'enthousiasme républicain des armées de Dumouriez. En plan d'ailleurs que Valmy fut la dernière victoire de la monarchie, puisque la République ne fut proclamée que le lendemain. Mais surtout, c'était pas seulement pour ça. C'est parce qu'il se trouvait que je voulais faire un discours que j'appellerais « guerre et paix ». Un discours sur la défense nationale, sur la guerre. Et je le faisais dans le département qui avait l'insigne honneur d'avoir eu les deux chefs des deux guerres mondiales, c'est-à-dire Clémenceau pour la première guerre, et Delatte de Tassigny, aussi deux personnalités contrastées sur le plan politique aussi, et par leur âge, et par leurs opinions religieuses et politiques, et ils étaient nés dans la même commune, à Mouilleron en Paray, ouais. Où il y a d'ailleurs, je dois le dire, un musée qui est consacré aux deux personnalité à égalité, et c'était bien dans l'esprit de ce que je voulais. Je voulais rappeler aussi aux Français qu'il n'avait pas toujours été un pays presque sans armée, qu'ils avaient un passé grandiose, même s'il n'a pas toujours été victorieux, ou qu'il l'a été au prix de pertes formidables. Voilà, le fait que ça se passait pas très loin de chez Philippe de Villiers, ah oui. Il y avait un petit clin d'œil quand même.
C'est une portée d'arbalète.
Faut être parfaitement honnête.
Mais vous avez été assez bien reçu, je crois, à Mouilleron. J'ai des amis qui étaient là-bas, les Tabarik, vous connaissez oui. bien. Ils m'ont dit que c'était plutôt. Les gens étaient plutôt sympathiques.
Ah oui, mais vous savez. Il n'y avait pas du tout d'hostilité. Moi, je suis frappé d'une chose, mais je crois que beaucoup de gens s'en rendent compte, de l'attitude du public. Par exemple, je vais vous donner une confidence. J'étais hier invité à assister au match de football Reims-Strasbourg. Je dois dire que j'ai porté chance à Reims, puisqu'ils ont gagné 2-0 contre le deuxième de D2, n'est-ce pas? Et il y avait un déploiement de policiers extraordinaire. Pendant 15 jours, toutes les autorités, le préfet, les renseignements généraux, la gendarmerie, tout le monde s'inquiétait. Le Pen vient, mais attention, le Pen, ça va être terrible, etc. J'étais au premier rang d'une tribune. Tous les gens, des gens qui regardaient quand même, etc. Il y avait les ultras et moi qui sont un petit peu le cop de Reims. Pas un cri, pas un doigt, rien du tout. Non. Écoutez, il semble que je sois entré dans le paysage politique et je crois que ça leur fout une trouille noire.
Attendez, vous êtes le seul homme politique qui prend pas des canettes sur un stade, alors c'est nouveau ça quand même.
Je crois que ça leur...
Pour ne pas dire dans l'établissement, je viens de lire dans National Hebdo que votre tournée dans la région de Tours, en Touraine, a été escortée par la police, toute sirène hurlante, pour mater 30 gauchistes qui vous attendaient à Tours. Alors vous êtes dans l'établissement maintenant.
Non, ils étaient plus nombreux quand même. Parce qu'il y en avait... ça avait commencé à Valmy, c'était très drôle, ils étaient 40 et ils chantaient la Marseillaise en agitant des drapeaux français au point qu'on pouvait croire qu'ils étaient convertis. Et on doit dire que Martinez et Gollnisch sont allés vers eux pour leur parler, et l'arabe qui les dirigeait leur a dit non, leur parlez pas, et à ce moment-là il s'est attiré cette réplique géniale de Martinez qui lui a dit, oh dis donc toi, moi je m'appelle Martinez, j'ai été Bougnoul avant toi.
Mais vous croyez pas que tout ce déploiement de force autour de vous, les gyrophores, faire les drapeaux, la police, une répétition générale peut-être pour l'arrivée à l'Élysée.
Mais je dois dire qu'il y a des villes comme ça dont on croit baigner dans la douceur angevine ou la douceur ligérienne, n'est-ce pas? Orléans, Tours, ce sont des endroits où on rencontre le plus de bagarres. Alors, on a en face de nous, il y en avait quand même 200 ou 300 quand même à Tours, et c'est un mélange de clochards avinés avec leurs chiens d'habitude, de gauchistes, d'anarchistes, etc. De fainéants qui n'ont pas autre chose à faire et qui viennent constituer Le Pen parce que je sais pas, ils n'osent pas aller ailleurs probablement, ou ils ont des liens avec d'autres
partis. Ils ont une prime.
Oui, une prime un peu, voilà. Alors il y a là-dessus la gendarmerie, la police font, ma foi, jusqu'ici très bien leur travail. C'est-à-dire qu'ils protègent les spectateurs, qui n'ont jamais manqué, qui ne sont pas, semble-t-il, dissuadés de venir, puisqu'à chaque fois on a fait le plein complet, la dernière que j'ai faite, c'est le banquet de Bordeaux. Il y a 800 personnes, la salle complètement pleine. On a refusé du monde. Un banquet républicain, peut-on dire ça? Voilà, pourquoi pas? Parce qu'on me conteste, moi, on me conteste le droit à la République. Je suis aussi républicain que n'importe lequel de ces gens-là. Je crois même que j'en respecte beaucoup plus des principes valables qu'ils ne le font eux-mêmes.
700 personnes à Tours, d'après National Hebdo, que tous les Parisiens ont pu voir avec votre sourire en 2 mètres de haut, au dos des kiosques, et qui nous dit « Le Pen, président, c'est possible ». Alors ça, c'est pas une question, c'est une réponse, mais tous les Parisiens, à travers moi, vous la posent, la question. C'est vraiment possible, Le Pen, président? Vous citiez tout à l'heure le précédent de 2002, il est accablant quand même.
Je vais faire une confidence qui va me valoir le regard noir de Serge. C'est que des amis m'ont absolument tenu à ce que je rencontre une très haute personnalité maçonnique. Que je ne connaissais pas, dont je ne connais pas le nom, et dont je crois que le nom est inconnu de tout le monde, sauf peut-être des frères. Bon. Et nous avons parlé de 2002. Je lui ai dit, vous n'êtes pas très fier, je pense, de votre résultat de 2002. Il m'a dit, écoutez, vous êtes trop sévère, parce que vous jugez maintenant, vous connaissez le résultat. Mais nous, le soir de l'élection, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu un président de la République sortant en exercice, faire moins de 20% des voix. Nous avons vu le Premier ministre socialiste battu. Et nous avons vu le candidat populiste talonner le président. De là, nous avons pensé qu'il ne fallait pas exclure, loin de là, la possibilité d'une déferlante populiste. elle ne s'est pas produite, je vous l'accorde, et tout a été fait pour qu'elle ne se produise pas. Je lui ai d'ailleurs dit, il m'a dit, ça a dépassé nos espérances, parce que, et il m'en a donné l'explication. Il m'a dit, monsieur, il y a 50 ans que nous nous efforçons de mettre sur place un édifice de compromis, de, ouais, que vous direz-vous, compromission, d'équilibre, d'avantages réciproques, etc., qui constitue ce que vous appelez le système, mais qui marche, et qui marche au bénéfice quand même de millions de gens. Et nous nous sommes dit que si le candidat populiste que vous étiez arrivait au président de la République, tout cet édifice s'écroulerait. Et alors, nous avons mobilisé toutes nos forces, nous les avons lancées dans la bataille sans réserve. Je lui ai même dit, vous avez dû sortir quelques cardinaux dormants, n'est-ce pas, comme on parle des espions, que vous avez lancés dans la bataille contre Le Pen, puisqu'il y avait les malades du sida et de l'amiante, il y avait les éphèbes de l'équipe de France de rugby, les voileux de la Trinité-sur-Mer, enfin, tout le monde était là pour conspuer Le Pen. Et les enfants des écoles étaient sortis sous la conduite de leur maître dans une leçon d'éducation civique vivante au cri de « À mort, Le Pen, salaud, poteau !»
Mais si, Le Pen n'était pas digne d'éloge.
Il y a une chose qui est extrêmement intéressante. Oui, voilà, ce que j'allais dire.
Ça, c'est très important.
C'est très intéressant qu'un dignitaire maçonnique dise « Oui, ben voilà, c'est vrai qu'on a monté toute cette opération parce qu'on avait peur. »
Oui, c'est ça. C'est ça.
Première chose, ils avaient peur, sans doute.
Mais cette fois-ci, vous m'avez posé la question. Hollande a déjà répondu à l'avance en disant, cette fois-ci, on ne nous y reprendra plus. Cette fois-ci, quoi qu'il arrive, on ne fera pas voter au deuxième tour.
Cette fois-ci, monsieur Le Pen, on vous reproche votre âge, mais est-ce que ça ne va pas vous aider cette fois? Parce que ça commence à... Vous faites moins peur, vous faites de plus en plus bon grand-père, bon papa. Le dictateur Le Pen à 78 ans, ça devient...
Oui, je vous rappelle que Clémenceau, à 78, avait toujours aussi mauvais caractère et qu'il s'est même efforcé de durer 10 ans de plus il y a 100 ans, n'est-ce pas ? Ce qui n'est pas rien. Et je vous rappelle que notre très jolie actrice Danielle Darrieux va être la vedette, ou est la vedette d'un film, elle n'a que 89 ans.
Il s'appelle Deuxième Chance.
J'ai encore un peu d'espoir.
Le colonel Château-Jobert, avec qui j'avais dîné à Granville, nous avait dit, on était trois à table avec lui, et il avait dit, je n'ai plus qu'une ambition, c'est d'être le dernier compagnon de la libération vivant pour emmerder tous les autres. mon ami, un ami qui était à cette table, dont je ne vais pas donner le nom parce que ça, c'est pas nécessaire.
Au dignitaire aussi
Non, pas du tout au dignitaire, non, qui est quelqu'un de chez nous, qui a même été un élu du Front National, m'a dit à ce moment-là, ils te tueront pour ça. Et Château-Jobert est mort quelques temps plus tard dans des conditions qui étaient bizarroïdes, parce que bon, il était très âgé, mais quand je l'ai vu, il était en pleine forme. Et il avait été en quelque sorte chambré par un type dont on ne sait pas d'où il sortait, qui a commencé à tourniquer autour de lui, qui s'est imposé comme porte-coton. Et le colonel est mort un peu après. Moi, je me demande, et on se demandait tous s'il n'y avait pas cette espèce de truc. Genre, il ne faut surtout pas que Château-Jobert soit le dernier survivant des compagnons de la libération. Donc, accélérons un peu un processus.
J'ai trouvé un slogan, moi, c'est génère de tous les décennies, unissez-vous.
Ça fait du monde.
Et votez pour moi. Nous allons décorer dimanche une vieille militante, c'est le cas de le dire, qui a 99 ans, qui viendra recevoir la flamme d'honneur du Front National. Alors lui, je vais donner une consigne, surtout vous passez la barre des 100. Hein,
autrement, alors, je voudrais dire encore une chose, ça c'est un message aux auditeurs, enfin à certains auditeurs. Je rappelle qu'il y a une technique du discours qui s'appelle le deuxième degré. Et c'est intéressant de le savoir parce que ça vous éviterait d'écrire ça. Parler de délire juvénile à propos des émeutes ethniques est manifestement une volonté de M. Le Pen de minorer la gravité de ces événements et d'occulter leur nature réelle, la volonté de détruire la civilisation française. Si M. Le Pen espère ainsi glaner les voix musulmanes, il est dans l'illusion la plus totale.
Oh là là.
Voilà. Donc, quand on dit dérive juvénile, délire juvénile, je pense que le président Jean-Marie Le Pen n'avait pas pour intention...
C'est la qualité des jeunes,
je vois, et de délirer. Voilà.
Alors,
Êtes-vous au courant d'une enquête venant de Belgique et indiquant qu'en cas de second tour entre Ségolène Royal et Jean-Marie Le Pen, Jean-Marie Le Pen gagnerait à coup sûr par 55%. Et ce n'est pas une histoire belge.
J'en accepte l'augure. Ça rejoint l'annonce du voyant qui ne se trompe jamais. Oui.
Au lieu de créer des jurys populaires, il serait bon que Jean-Marie Le Pen rétorque à Ségolène Royal qu'en instituant la proportionnelle, elle aurait les jurys les plus efficaces et les plus légitimes.
C'est ce qui a été fait. Je demande la proportionnelle dans tous les ordres d'élection.
64% des Français vous soutiennent, sondage du Parisien du 4...
Oui, mais pas seulement à l'Assemblée nationale. Il faut rétablir la proportionnelle partout, car les scrutins ont été magouillés, ont été biaisés pour le confort des exécutifs. Parce que quand on est sûr d'avoir une majorité pour 5 ans ou pour 6 ans, on a plus de mal à se donner, à se constituer des majorités qui correspondent aux problèmes qui se posent en un moment donné et dont on sait qu'ils peuvent changer, bien évidemment. Alors, moi je pense qu'il faut rétablir partout et il faut mettre le coup de pied dans la fourmilière. Voilà. Et puis, on reconstruira ça. Ça ne sera pas la première fois que la France se reconstruise, à condition d'avoir mis à bas l'édifice de taudis politique dans lequel elle vit jusqu'à présent.
Pensez-vous vraiment que vous pouvez changer le système ?
Écoutez, je m'efforce, je ne peux pas le changer tout seul, ça c'est sûr, mais je pense que la synergie de la vérité peut conduire beaucoup de Français qui, de surcroît, ont fait l'expérience sur le terrain de la vérité d'un certain nombre de nos analyses. Et donc, on seront tentés de peut-être d'adopter nos propositions. Et ceci, quels que soient les votes qu'ils ont exprimés jusqu'à présent, aussi bien à gauche, à l'extrême gauche, qu'au centre ou à droite. Moi, je crois qu'à un moment donné, ça s'est produit plusieurs fois dans l'histoire du pays, sans remonter à Bouvines. Il y a un moment donné, c'est le génie de ce peuple, et il cristallise sa capacité de résistance et de situation invraisemblablement négative. Il arrive à sortir ce qu'il y a de positif.
Que comptez-vous prendre comme disposition si vous n'obtenez pas les 500 signatures ? Parce qu'on pourrait peut-être se préparer à vous soutenir dès maintenant.
Non, je crois qu'il faut il ne faut pas attendre que la bataille soit perdue. Il faut essayer de la gagner. C'est ce que je m'efforce de faire et je vous supplie de m'aider à le faire.
À Nogent-sur-Marne, un propriétaire s'emparant d'une arme tenue par ses cambrioleurs en a tué un. Le propriétaire est incarcéré. Cela rappelle l'affaire Guarin. Ces joueurs de rugby, dont l'un était incarcéré et tabassé par des détenus pour avoir arrêté un voleur.
Oui, alors, c'est une histoire. Vous avez été informé de cette affaire d'Aran, c'est une histoire.
Oui. Ah, ça met en cause une notion fondamentale de sécurité publique qui s'appelle la légitime défense. Et celle-ci a été amenuisée, érodée, vidée de sa substance par cette espèce de tendance qui dure depuis plusieurs décennies de dépouiller la société de ses armes de défense. La légitime défense étant bien évidemment celle qui peut compter sur le plus grand effectif, puisque chacun étant en quelque sorte réputé de pouvoir et donc devoir se défendre dans un certain nombre de cas, eh bien c'est autant que n'ont pas à faire les forces de l'ordre. Et si les forces de l'ordre doivent faire tout ce qui devrait être fait par ceux qui pourraient le faire, moi je dis franchement que dans le cas comme M. Dahan, je le mettrai en liberté tout de suite. Je considère que le droit de tuer un homme qui vient chez vous une arme à la main dans le désir...
357,
il n'y a aucun doute pour moi. Il n'y a pas de problème. Je n'attendrai pas d'avoir deux balles dans le ventre pour désarmer le gars et lui mettre ses propres balles dans le corps. Estimant que ma vie vaut mieux que la sienne.
Cette histoire est tout à fait extraordinaire parce que M. et Mme Dahan, qui étaient commerçants à Nogent-sur-Marne, ont été agressés à leur domicile par trois malfrats armés. Trois. M. Dahan s'est jeté sur un des malfrats, lui a arraché son...
Quel courage
Le 357 Magnum qu'il braquait sur sa tête. Enfin, c'est incroyable.
Quel courage incroyable. On ne devrait pas le décorer.
Et dans le feu de l'action, il a tiré... Il a tiré sur l'agresseur, il l'a tué. Ce qui est une très très bonne nouvelle. Celui-là, au moins, il n'emmerdera plus personne.
Ça se discute même pas.
Eh bien, il a été donc mis en garde à vue 48 heures. Et il a été ensuite transféré à Fleury-Mérogis. Les deux autres agresseurs, ils courent toujours. Il y en a un qui court plus pour des raisons qu'on a expliquées plus haut. Et Madame Dahan a été obligée de quitter son domicile, pas par peur des représailles, mais parce que comme les faits se sont déroulés dans le domicile, la justice a mis les scellés sur le domicile. C'est hallucinant, littéralement hallucinant. Il devrait y avoir 50 000 personnes dans la rue pour
protester. Serge, si vous aviez écouté mon discours sur la justice, vous auriez été plus heureux que vous ne l'êtes maintenant. Parce que j'ai fait un discours sur la justice à Bordeaux, dans laquelle j'ai rappelé tout de même que le syndicat de la magistrature, qui obtient 30% des voix aux élections, a publié son programme avec en couverture une tête de cochon avec un képi de flic. Ça vous dit tout le reste.
C'est très symbolique, là, oui.
Et le haut dignitaire que vous avez rencontré, vous ne connaissez pas le nom, il n'était pas magistrat, lui ?
Non, je ne crois pas. Je ne sais pas ce qu'il était.
Tous les magistrats sont, tous les maçons ne sont pas magistrats, mais beaucoup, c'est comme la cavalerie, les imbéciles. Je termine avec cette histoire. Donc, ça s'est passé, ça, donc, à Nogent-sur-Marne. Je rappelle que deux jours avant, le directeur des polices urbaines, enfin de la police de. C'est le 93 ou
le. Non, c'est Savigny, c'est donc.
En force.
Savigny, c'est le 7-7 en force.
Ah, c'est 7-7. A fait libérer immédiatement une 70 jeunes.
Qui avait déjà poignardé trois personnes.
Oui, voilà. La cause est entendue par nos concitoyens, j'en suis sûr, et ils attendent que ça change. Ça.
Oui, parce que le message.
Et la police aussi attend que ça change. Et beaucoup d'immigrés attendent que ça change.
Bien sûr.
Qui sont les victimes de la terreur qu'imposent ces gens-là et qui d'ailleurs participe de ce mouvement d'émigration qui chasse les gens, par exemple, du 93. Des gens s'en vont parce qu'ils ne peuvent plus rester dans cette situation-là.
Exactement. Ils votent avec leurs pieds.
Absolument. C'est le Kosovo français.
Si Philippe de Villiers se ralliait à Jean-Marie Le Pen et que cela vous menait au pouvoir, proposeriez-vous un poste de Premier ministre à Philippe de Villiers ?
Je ne sais pas, un poste de Premier ministre, mais certainement un poste de ministre important, bien sûr, évidemment, parce qu'il y a tout de même le rapport des forces qui s'établirait à partir de l'Assemblée nationale. C'est cela qui déterminera le choix du Premier ministre. Ce sont les élections.
Au moins, il a fait la preuve de ses compétences dans certains domaines. Là, le puits du fou dans le domaine
de la culture. C'est vrai, il a même été ministre, un peu ministre de la culture.
Le bouquin de Branca et Folle, qui est extrêmement intéressant.
Oui. Le mystère Villiers aux éditions Villiers, du Rocher.
Qui raconte, c'est une biographie, c'est pas une géographie, hein, c'est une biographie sympathisante, mais pas du tout, c'est pas géographique du tout. Il y a des choses intéressantes dedans, et notamment, alors, sur ce qui s'est passé quand il était ministre, c'est vraiment intéressant, parce qu'on voit les mœurs de ce milieu, qui est un milieu de crapule absolue. Léotard est quelqu'un, quand on sort de ce bouquin, on est ahuri de voir que cet homme a pu pendant un moment incarner quelque chose.
Il continue, de temps en temps il fait une page, je ne sais pas au frais de qui d'ailleurs, il a fait une page dans la presse ce qui était adressé, je ne sais pas si c'est pas au président iranien.
Oui, au président iranien.
Je crois que c'est ça, voilà. Oui.
Qui était écrite dans aucune langue connue d'ailleurs.
C'est le sanskrit.
Aux États-Unis, les États où les armes sont en vente presque quasi libre, ce sont les États où il y a le moins de crimes et de cambriolages.
C'est vrai, et pour cause.
Je trouve curieux que les très gauchistes affectés à la propagande officielle de la désinformation ne nous parlent plus des sans-abri que l'on croit abrités du grand froid. Craindraient-ils que l'on fasse un parallèle avec l'affaire de Cachan, où des délinquants polygames et leur progéniture sont logés, nourris, soignés par le contribuable français, tout en insultant la France, bien sûr.
Oui, mais il faut dire que la plupart des SDF, dans très grande majorité, sont des Français de souche, si j'ose dire. C'est la raison probablement pour laquelle on en parle peu.
Est-ce que vous avez fait étudier par des experts ou par des collaborateurs du Front National un moyen de remédier ? Parce que maintenant, à Paris, c'est effrayant ce qu'on voit dans le 10e arrondissement. À chaque coin de rue, je n'exagère pas, à chaque coin de rue, il y a un mendiant.
Partout.
Qui dort par terre, qui est bon. Est-ce que quelqu'un réfléchit à un moyen de régler ce problème ? problème qui devient terrifiant.
Le vrai problème, il est celui de toute la France, puisque ça, c'est la preuve marginale, mais visible, de l'appauvrissement, de la paupérisation de la population française. Les Français sont de plus en plus pauvres, et bien évidemment, ce sont les plus pauvres des plus pauvres qui sont les premiers à en souffrir. Et on voit d'ailleurs dans ces sans-abri, dans ces SDF, des gens qui travaillent, c'est-à-dire qui quittent la bouche de métro où ils dorment, ou le banc pour aller travailler, gagner leur vie, mais ils ne gagnent pas suffisamment pour avoir un logement, puisque ceux-ci, par définition et par application de la loi, sont réservés en priorité aux immigrés, fussent-ils clandestins, et que la plupart des aides sociales sont attribuées en priorité aux gens selon des critères que l'on veut égalitaires et qui ne tiennent pas compte de la préférence nationale, laquelle préférence nationale, je voudrais le dire, est justifiée par le fait que nous ne sommes pas seulement des citoyens, nous les Français de France, nous sommes des héritiers. C'est-à-dire que c'est le patrimoine que nous recevons des générations qui ont travaillé, souffert et se sont battus pour nous. Et par conséquent, nous avons un droit légitime, prioritaire, à obtenir des avantages sociaux qui sont gagés justement sur ce patrimoine auquel n'ont pas participé, quoi qu'en disent un certain nombre d'acteurs, des indigènes ou d'ailleurs, qui n'ont pas participé dans la proportion qu'ils croient ou qu'ils disent, ni aux batailles de libération de notre pays ou de défense de notre pays, ni aux batailles de la production. N'est-ce pas ? Il faut tout de même se souvenir que dans ce qu'on a appelé au début dans les années 50, dans les années 60, quand on a fait venir des travailleurs étrangers, d'ailleurs pour peser à la baisse sur les salaires manuels français, ou pour faire échec aux syndicats, pour créer des syndicats jaunes, pour faire échec à la CGT, eh bien, ils étaient 400 000, n'est-ce pas ? Alors qu'il y avait à ce moment-là 40 millions de Français. Par conséquent, ils ont peut-être contribué. Pour contribuer, ils ont été rémunérés, n'est-ce pas ? Penseriez-vous, qu'est-ce que penserait le bobo si le plombier qui est venu lui installer sa salle de bain venait pendant le week-end avec sa marmaille en disant, écoutez, je suis celui qui vous a posé la baignoire, alors vous m'avez réglé, c'est vrai, mais j'ai une espèce de droit de suite et je viens avec la famille pour prendre un bain si vous n'y voyez pas d'inconvénient.
J'avais écrit une nouvelle sur ce thème, exactement.
C'est là que le bobo prend son prochain.
Un auditeur.
Monsieur Le Pen, est-il vrai que vous soutenez la loi liberticide qui consiste à interdire aux fumeurs l'entrée des bistrots ? Je ne peux y croire.
Non, mais écoutez, non. J'ai dit sur ce sujet ce que je pensais. Je pense que c'est un bon effort de la collectivité que d'essayer de diminuer la consommation d'alcool ou de tabac. Bon, encore que il semble que nos élus et nos dirigeants soient uniquement préoccupés d'élaborer des législations pénales pour forcer les gens en dehors de tout effort de conviction, d'information. Et je me suis rendu compte moi-même de la diabolisation des fumeurs. Et je me suis rendu compte que n'étant plus fumeur moi-même depuis longtemps, mais quand j'arrive à Orly et que je vois les gens à l'entrée de l'aéroport fumer, je ressens une espèce d'impression de rejet malgré moi, et je me rends compte de la manière dont se crée le phénomène de diabolisation. Alors, on ne doit pas diaboliser les gens, en particulier ceux qui font l'effort d'aller fumer à l'air libre. Mais il est évident que l'argumentation selon laquelle, dans les cafés ou dans les restaurants, il est interdit de fumer, c'est la protection du personnel qui se trouve, parce que le tabagisme passif, c'est quelque chose qui existe aussi. Bon, alors, je pense qu'on doit trouver un certain nombre de dispositions qui permettent à ceux qui en acceptent le risque à un moment donné de recevoir les gens qui fument. Ça me paraît par exemple que le café du village, qui est généralement le dernier café qui reste, qui est le café tabac, carte postale, timbre et autres services, y compris de la poste, celui-là, et que en toute hypothèse, si une cause, un intérêt national ou général exige des sacrifices, eh bien, ils ne doivent pas être consentis uniquement par une ou deux ou trois catégories sociales. Et par conséquent, les catégories sociales qui sont pénalisées par cette décision doivent être entièrement remboursées des pertes qu'ils ont subies.
Je crois aussi qu'il faut arrêter de considérer les gens comme des enfants. Enfin, quelqu'un qui veut fumer, c'est son problème. Il doit y avoir un établissement où on indique ici on fume, et puis un établissement ici on ne fume pas. Et les gens qui veulent aller dans un endroit tabagique, ben ils vont là. Les gens qui veulent travailler dans un bistrot tabagique, ils vont là. Et il y a encore une solution qui est la solution anglaise du pub, où il y a une salle dans laquelle il y a le bar, et puis une salle où on va boire, et donc les gens qui fument vont chercher leur verre, et puis ils vont dans la salle où ils fument, comme ça le personnel n'est pas...
Je me suis d'ailleurs associé à la demande de reporter, enfin, du délai de 5 ans pour que les gens se préparent à prendre ces décisions.
C'est ahurissant. Entre la ceinture obligatoire, le casque obligatoire, bientôt ça sera des moustaches obligatoires pour filtrer l'air, pour pas... c'est du délire, quoi. On y va.
Le voile obligatoire.
Le voile obligatoire, oui.
Le cochon interdit.
Vous savez qu'en Suisse alémanique, c'est dans le Libre Journal qui vient de paraître, numéro 391, le port du drapeau national est interdit parce que la croix pourrait froisser certains visiteurs. Bon, on croit rêver. Enfin, Serge, confirme-le, parce que je le répète, puis en le répétant, je me dis, j'ai rêvé. C'est vous qui avez sorti cette information. Oui, elle est confirmée.
Ah oui, elle est absolument confirmée. Je la tire de source sûre et même plus que sûre, comme disait je ne sais plus qui. Et effectivement, donc ça se passe en Suisse. Le drapeau national est interdit parce qu'il est considéré comme provocateur. Et le gars qui a prononcé, l'élu local qui a prononcé cette disposition, ajoute que les jeunes filles qui portent des t-shirts frappés de la croix suisse et qui ont l'air joyeux, c'est ça, affichent un air joyeux, voilà, qui affichent une bonne humeur, sont particulièrement provocantes. Voilà.
Il y a des moments où on se demande vraiment... Le puits de la sonnerie humaine est insondable.
D'autres questions.
Un auditeur.
Ça revient au début, évidemment. Ce que vient de dire Jean-Marie Le Pen est merveilleux. Fabius vient de prendre un obus en pleine poire, vu que vous êtes écouté par les officines. Avec cette phrase, Fabius va être habillé pour l'hiver par le politiquement correct. Question sérieuse, seriez-vous favorable à la suppression de l'aide médicale d'État fournie aux étrangers ?
Oui.
Oui.
Est-ce que Jean-Marie Le Pen est favorable au rétablissement de la peine de mort ?
Oui.
Ça va vite, là.
C'est une bonne question.
J'ai entendu dire qu'un maire socialiste veut donner sa signature à M. Le Pen pour nuire à M. Sarkozy. Je voudrais bien savoir de quelle commune il est le maire. Vous savez pas.
Je ne sais pas, mais j'accueille
pas
tout.
C'est moi qui donne sa signature. Là.
Vous, contrairement aux autres, vous ne balancez pas.
Tout ce qui vient est sanctifié.
Voilà,
Alors que votre candidature commence à prendre de la crédibilité, les journalistes commencent à recourir aux épouvantails classiques en insistant sur la vision rétrograde du programme du Front. Retour à la France de Vichy, racisme, la femme au foyer. Comment allez-vous faire pour convaincre les électeurs qu'ils se trompent et quel gage pouvez-vous leur donner pour rassurer ces citoyens indécis et dubitatifs?
Et allez-vous continuer à manger les petits-enfants?
Mais écoutez, oui, vous savez, il y en a quand même 5 millions qui ont résisté à toutes les mises à jour. Et je crois qu'ils vont servir de base au recrutement de 5 millions supplémentaires, ce qui serait nécessaire déjà pour le premier tour.
Mais je ne vois pas pourquoi ils en veulent tellement à Mme Fouillet.
Mais ouais.
Vous voyez,
Tiens, Monsieur Le Pen se plaint de ce qu'il n'a pas de maire pour lui donner des signatures. Ne pense-t-il pas qu'il aurait dû encourager ses militants à se faire élire maire dans leur commune? Plusieurs en avaient la capacité, plutôt que de virer le seul qui avait réussi en ce sens.
Ah oui, le seul sur 38 000, ça n'a pas résout pas le problème. La preuve, en plus, il ne me donne pas sa signature.
Enfin, Président, vous êtes à la recherche de maire porteur.
Oui. Absolument.
Bravo, Marqué, très bien.
Merci.
Je passerai mon bureau, j'aurai une petite gratification pour vous.
Félicitations à Jean-Marie Le Pen pour avoir dit « L'écologie est une notion de droite ». Souvenez-vous du parti créé avant le Front National, le REL, Rassemblement Européen pour les Libertés, par Dominique Vénère parlait d'écologie en 1963.
Qui n'est pas le parent de Fiametta Vénère, à ne pas confondre. Qui vient de commettre un livre qu'elle croit outrageant, qui s'appelle L'Extrême France. Moi, je trouve que c'est plutôt flatteur.
Ben oui, c'est comme ça que j'avais qualifié Pocard, militant d'Extrême France.
Alors, c'est plutôt bien.
Oui, ouais. Apparemment, ça ne lui a pas plu. Ah. Je regrette, mais...
En fin de compte...
Pocard ou jamais.
Jean-Louis Debré et Nicolas Sarkozy ont tout fait pour désarmer les Français. L'avenir de la France se joue sur le terrain de la résistance et il semble que seuls les étrangers aient le droit d'être armés. Quel est le point de vue de Jean-Marie Le Pen sur ce sujet ?
Ils en parleront, ils le prennent.
Oui, si ce sont des bons étrangers, pourquoi pas ?
Monsieur Le Pen ne pense-t-il pas qu'une des causes de la violence des jeunes est la désinformation médiatique et scolaire sur la guerre d'Algérie ? L'armée française a-t-elle été seule à torturer ? Connaît-il le livre préfacé par Jean-Pierre Rondeau qui renferme maintes photos où l'on voit les atrocités faites par le FLN ?
Oui, je crois que ce livre est très utile, mais je ne crois pas que ça joue un grand rôle dans l'excitation des banlieues. Il me semble que les événements quotidiens qui se passent plutôt dans le Proche-Orient sont plus de nature, sans doute, à créer l'agitation, mais il est certain qu'on a laissé se perpétuer un certain nombre de mensonges sur le rôle de la France dans ses colonies et en particulier en Algérie et pendant la guerre d'Algérie, qui n'ont jamais été en quelque sorte retoquées comme elles auraient dû l'être par les responsables politiques, et qu'à chaque fois qu'on le peut, et il y a quelqu'un qui fait cela admirablement, c'est Roger Olyndre, et bien à chaque fois qu'on le peut, il faut le faire, il faut rétablir la vérité inlassablement.
Il y a aussi quelque chose qu'il faut dire, c'est que si l'histoire de la guerre d'Algérie joue un rôle dans la haine que certains jeunes portent à la France qui les accueille, c'est pas ça qui les mobilise dans la rue. On sait très bien ce qui les mobilise dans la rue. Ceux qui les envoient dans la rue pour provoquer des incidents, plus que des incidents, des émeutes tribales, ce sont les trafiquants de drogue. On le sait très bien, c'est le marché de la drogue. Alors là, nous, on publie dans le livre journal, Goffman donne un chiffre qui est absolument ahurissant.
C'est pas mon chiffre, bien sûr, hein, c'est celui des renseignements généraux, qui est de 4,2% du produit intérieur brut pour l'économie criminelle dans les quartiers. Et nous donnons également un point de comparaison. L'ensemble de l'activité bancaire qui occupe en France 420 000 personnes ne fait que 4%. Et cette activité criminelle fait 4,2%.
Alors, je vais changer de métier, je vais
le chercher. Ah oui, il faut vous mettre dealer.
Voilà. Alors ça explique.
C'est ce qu'ils disent, cher ami. C'est ce qu'ils se disent eux-mêmes. Pourquoi aller bosser dans une usine ou dans un atelier alors que je peux gagner ici en une demi-journée ce que je gagnerais dans une semaine en allant au boulot?
C'est pour ça qu'ils veulent des quartiers dans lesquels la police ne va pas, les pompiers ne vont pas, aucune représentation de l'autorité ne va. Comme ça, ça fait des endroits qui sont des sanctuaires.
Des oasis.
Des oasis, voilà, exactement.
D'ailleurs, il n'y a que les aveugles qui ne voient pas ces gens rouler en Mercedes, en BMW.
Ceci étant, je crois que quand même le problème de la repentance actuelle, le problème justement de la haine que se porte la France, enfin la France ou en tout cas l'État lui-même à la France, à travers justement la repentance, à travers tout ce qui est fait sur la torture, le viol des femmes, etc. Je crois quand même que ça joue quand même pas mal dans la haine et ça sert
ça les débloque. Voilà, c'est ça, c'est évident.
On leur apprend qu'on a violé leur mère, qu'on a torturé leur père, qu'on les a...
Oui, nous aussi on a vécu la guerre d'Algérie, on a eu des copains qui sont morts, de la famille qui y est restée. Alors moi je revendique le droit à la haine aussi, on va pas en sortir.
Non, mais de toute façon c'est pas la même chose. Non, je pas mettre sur le même plan.
Je ne crois pas cela, parce que les jeunes gens, la guerre d'Algérie s'est terminée il y a 40 ans, bientôt 45 ans, et quand ils ont 20 ans, leurs parents n'ont pas participé à ces guerres-là. Par conséquent, c'est pas ça. Moi je crois, bien sûr, il y a tout ce baratin qui est fait, qui justifie parce qu'il est admis. par la majorité des gens. Les gens disent, bah oui, c'est ça, etc. Alors que c'était faux.
Vous n'allez pas assez sur les blogs algériens et sur les blogs français qui sont tenus par des musulmans.
Oui.
Et si vous y alliez, monsieur le Président, vous verriez que ça y participe de beaucoup, la guerre d'Algérie, auprès de personnes qui sont très jeunes aujourd'hui.
Oui, parce que vous pensez que ces blogs sont très fréquentés beaucoup, par les gens qui...
Ils servent.
Moi, je ne l'ai pas eu. Je dois dire que c'est
une question que l'arme dont on parlait tout à l'heure, qui est à notre... qui nous sert à nous à passer des informations, elle sert aussi de l'autre côté.
Non, mais j'entends bien. Mais moi, je n'ai pas eu la preuve. Je ne dis pas que ça n'existe pas. J'ai prononcé cette phrase quelque part. Je n'ai pas eu de confirmation.
Et c'est pas pour rien que le Parti communiste vient de demander, c'est une loi qui est passée, je l'ai découverte aujourd'hui, mais le Parti communiste vient déposer un projet de loi pour le 16 octobre, pour demander donc que ça devienne une date officielle avec un monument à Paris, etc., pour le fameux massacre, soi-disant,
prétendu massacre. Le Parti communiste est toujours encore aujourd'hui à l'origine de tout ce qui peut nuire à la France au maximum, n'est-ce pas ça? Il faut le savoir, en rappelant d'ailleurs que ce n'est pas le FLN qui a été le promoteur des attentats à la bombe en Algérie, ça a été le Parti communiste, dont les chimistes ont préparé les bombes et dont les premières ont été posées par Daniel Mine et un certain nombre de militantes communistes.
Qui enseignent en France.
Que Mitterrand a fait guillotiner.
Oui,
Daniel Mine enseigne en France.
Oui, je voudrais faire une petite parenthèse, si vous permettez. Je ne sais pas si vous avez vu les deux films consacrés à Jacques Chirac, Le jeune loup, Le vieux lion, à la télévision. Ils contenaient un aveu, relevé d'ailleurs par le journaliste, extraordinaire. Jacques Chirac a dit... Je n'ai jamais renié les options de ma jeunesse. Or, les options de jeunesse du président Chirac, il était militant communiste. Comment direz-vous militant communiste? Oui, il n'était pas sympathisant. Il s'était pas contenté de signer l'appel de Stockholm contre la bombe américaine et au bénéfice, bien sûr, de la bombe soviétique. Il vendait l'humanité dans la rue. Or, ça, c'est un acte militant, s'il en est. Et quand il déclare, étant président de la République, 50 ans après, je ne renie pas les options de ma jeunesse, ça veut dire qu'il reste fidèle à l'idéologie communiste. Et ça explique beaucoup de choses. Beaucoup de choses, c'est clair, même s'il s'est avancé masqué dans un certain nombre de circonstances, ce qui ne s'explique pas dans l'attitude et dans les choix, certains choix de Jacques Chirac, sont éclairés par cet aveu.
C'est un drôle de coco. Ça fait trois ce soir. Hein.
Serge de Becquet reçoit Jean-Marie Le Pen sur Radio Courtoisie.
Un auditeur nous dit, j'habite en Seine-Saint-Denis, j'habite dans une cité où des Français d'origine nord-africaine vont voter pour vous, monsieur Le Pen, car ils en ont ras-le-bol.
Je le crois.
Ça, c'est un phénomène intéressant.
Ça, alors j'en ai, en revanche, des preuves patentes.
Ça commence à venir tous les jours, ça. On l'entend partout.
Oui, absolument.
Il y a avant-hier, un coiffeur, chez lequel j'allais, qui est algérien, m'a dit, mais qu'est-ce que vous attendez? Enfin, il est d'origine algérienne. Français, parce que il est devenu français. Et d'abord, il me parlait de la langue française. Il me disait, moi, la langue française, quand j'étais à l'école en Algérie, c'était mon grand plaisir d'apprendre le français, et j'étais premier, bon, etc. Et puis, il me dit, d'ailleurs, j'aime beaucoup la France, mais je ne comprends pas les Français. Pourquoi vous acceptez ça? Alors, je dis, mais on n'accepte pas tous. Il y a des gens qui n'acceptent pas. Je peux vous dire, par exemple, que Jean-Marie Le Pen, il n'accepte pas. Mais je pense que c'est pas votre tasse de thé. Oh, il me dit, monsieur, vous ne jugez pas trop vite. Ne sautez pas trop vite aux conclusions. Vous savez, il y a des gens chez nous qui trouvent que vraiment, on en a marre de ce qui se passe.
On peut dire qu'en principe, l'immigré ou l'ancien immigré, ou le français récent, qui travaille, qui gagne sa vie. Eh bien, celui-là, je crois qu'il est très largement prêt, quand il ne le fait pas, à voter pour moi. Parce que ils sont ceux qui sont en première ligne, qui voient mieux que d'autres ce qui est en train de se préparer. Or, ce qui est en train de se préparer, c'est la submersion de notre pays. Et ils se rendent bien compte qu'ils seront les premiers emportés dans ce cataclysme. Et c'est pour ça que la plupart d'entre eux, sans toutefois parfois le dire publiquement, car ils sont quelquefois dans des quartiers où ça signifierait la persécution ou l'agression, eh bien, moi, je crois que dans les urnes, cela se retrouvera et en surprendra plus d'un.
Il y a d'ailleurs une chose qui est très frappante en ce moment. On voit énormément de reportages sur les autobus à cause de ce qui s'est passé, des incendies. Et 90%, on peut dire 90% des conducteurs de bus qui sont des machinistes qui sont interrogés sont des maghrébins. C'est assez frappant d'ailleurs. Ça procède de la fameuse politique de la RATP qui disait il faut que nous ayons des employés qui ressemblent à ceux qu'ils transportent. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis des maghrébins au volant des autocars et des bus qui conduisent des populations immigrées majoritairement maghrébines. Et en espérant quoi? Que ça allait éviter les incidents? Ça n'a rien évité. Tous les gars disent, qu'est-ce qu'on prend? On a peur. Et alors, on voit les noms, on voit les têtes. Et les délégués syndicaux, il y avait un grand gaillard très costaud qui était, probablement un Algérien. On sentait que ces gars-là ont peur. Ils sont exactement logés à la même enseigne que le Gaulois, que le Français de Chouz, que le Portugais.
Peut-être même pire. Ils sont considérés un peu comme collabos, quelque part. C'est ça.
Comme les gosses qui ont le malheur de travailler et d'étudier et qu'on traite de beaux fonds et qu'on castagne à la récré pour leur apprendre à étudier.
Monsieur Hulot, selon Ici et Maintenant, très écolo, prendrait l'hélicoptère chaque semaine en temps normal pour regagner sa villa en Corse. Cela doit être un hélico écolo.
Ben, c'est comme José Bové et sa bande qui se plaignent de ce qu'on a abîmé leur voiture. Les écolos ont des voitures.
C'est extraordinaire, mais cette histoire de José Bové est extraordinaire. Voilà un monsieur, n'est-ce pas, qui viole la propriété privée de quelqu'un, qui saccage, excusez du peu, 2000 tonnes de maïs.
Il représente du boulot.
N'est-ce pas, 2000 tonnes de maïs. Et qui se fait tirer dessus sans malheureusement être touché. Ce qu'on peut regretter, n'est-ce pas, parce qu'il était dans la propriété en train d'agresser les biens d'un honnête citoyen.
Qui est en prison lui aussi, d'ailleurs.
Et qui se plaint, qui porte plainte, et qui est libéré, on n'a retenu aucune charge contre lui.
C'est
absolument inouï. C'est extraordinaire. C'est un scandale. Et moi, je l'appelle toujours le fils des chercheurs de Silicon Valley. Parce que ce berger des Causses parle mieux l'anglais que le français, ayant passé la plupart de sa vie aux États-Unis, et c'est où ses parents travaillaient ou travaillent.
Paul Léoto écrivait « Tout individu ne vaut un peu que par le sentiment de révolte qu'il porte en lui. Ah. Êtes-vous un homme révolté ?»
Oh mon Dieu, oui.
Bienvenue au club. C'est de l'or pur qui souffle ce soir. Ça nous fait du bien d'entendre enfin des propos justes, sains, sincères. Merci.
Alléluia.
Une question à Monsieur Le Pen. J'ai lu dans la presse que dans votre programme, vous envisagiez de geler la dette. Vaste programme, qu'entendez-vous par là?
Eh bien, c'est-à-dire que si on je pense que nous sommes dans une situation de stagnation, de stagflation en quelque sorte, parce que il est absolument nécessaire que nous dégagions une croissance plus grande que celle que nous connaissons et qui est celle, je vous le rappelle, dans l'Euroland, la plus basse du monde. Et que, par conséquent, si on traîne cette dette avec comme objectif immédiat de la réduire, nous risquons qu'il nous arrive ce qui est arrivé à Ceausescu, qui s'est attaché à rembourser sa dette et qui a mis son pays dans un état de misère telle qu'il l'a payé de sa vie. Alors l'idée que nos spécialistes ont, c'est que on bloquerait la dette avec l'intention de la rembourser un jour, mais de ne pas la faire entrer dans des comptes annuels. Mais ça, c'est de la technique comptable publique, car c'est une des grandes raisons de la difficulté qu'il y a d'apprécier sainement ces choses-là, c'est la fameuse annualité du budget français. Mais enfin, c'est un autre problème. Mais éventuellement lancer un emprunt, mais qui serait de la responsabilité du nouveau gouvernement. Un emprunt dont il serait pris l'engagement qu'il ne servirait qu'à des investissements. Et en particulier dans ces investissements, je voudrais faire remarquer la reconstitution de la force militaire française. Car là, on sait que la reconstitution de la force militaire française, le budget militaire revient dans l'économie à 0,80 pour 1. C'est-à-dire que le retour économique, c'est probablement dans cette activité qu'il est le plus important. Et comme nous avons besoin d'avoir une armée pour nous défendre, parce que sans ça, nous ne serons plus un pays indépendant et libre, eh bien, je crois que la politique qui sera proposée sera une politique hardi. Mais nous ne donnons pas comme obligation de prendre la charge de 30 ans de déficit budgétaire sur les épaules en disant bah, écoutez, on va se consacrer on va s'échiner à rembourser la dette de M. Chirac, de M. Mitterrand et consorts. Donc nous disons à un moment donné, ce sont des processus comment dirais-je, financiers dont je ne suis pas, je l'avoue, très familier.
Notre expert financier fait une drôle de tête.
On va y venir tout à l'heure. Jean-Marie Le Pen,
je fais une drôle de tête parce que comme vous ne pouvez pas expliquer parce qu'on n'a pas le temps.
Non, mais on va avoir le temps, mais simplement
que ça rejoint un autre discours sur cette antenne. Et c'est pas du tout la même chose.
On va avoir le temps si Jean-Marie Le Pen veut bien rester encore un petit moment.
Oui, bien sûr.
Parce que je voudrais qu'on pose justement des questions de l'ordre de l'économie et on doit arrêter là la première partie de l'émission. À tout de suite.
De passer la soirée à notre compagnie. Je vous rappelle qu'à 21h tout à l'heure, nous avons rendez-vous pour les soirées musicales. Dès 9h, la discothèque pour connaisseurs et amateurs de Claudio avec les danses de Brahms et de Dvorak sous la direction de Bukowski. À 22h, les musiques de films et à 23h, les grands pianistes. Ce soir, Karl Engel joue Schumann, suite de cette série d'émissions. Tout de suite, la seconde partie du livre journal de Serge Beketch, toujours en direct. Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 19h30. Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie. Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Beketch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 8 novembre 2006 de 18h à 21h, en différé jeudi 9 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en écrivant à contact@radiocourtoisie.com.
Les officiers blancs, les otages si nombreux, la honte de l'Occident, les otages si nombreux.
nous reprenons l'antenne et nous, je commence par une invitation qui est adressée à Jean-Marie Le Pen par les jeunes du COP de Boulogne. Ils disent, Monsieur Le Pen, vous avez assisté au match à Strasbourg, quand viendrez-vous assister au match au Parc des Princes pour saluer le COP de Boulogne?
Ben quand on m'invitera.
Voilà. Monsieur Le Pen, on vous aime. C'est pas les mêmes qui disent ça, parce que les COP de Boulogne n'ont peut-être pas envie de leur faire des câlins, quoi, forcément.
Mais vous savez qu'en 50 ans de vie publique, alors que j'ai été élu toujours de quelque chose à un moment donné, je n'ai jamais été invité dans des matchs ou des choses comme ça. J'ai été invité une fois par Farid Smaï au Stade de France. C'est la première fois de ma vie que j'assistais. Et une fois par l'ambassade d'Iran, c'était au match Iran-États-Unis, où d'ailleurs les États-Unis ont été battus, ce qui a permis aux petites Iraniennes qui étaient à côté de nous sauter dans les bras. Elles n'avaient pas de hijab, n'est-ce pas ?
Votez Jean-Marie, exclu et discriminé.
Alors, on va venir maintenant à la question, enfin à des questions économiques. Là, je ne laisserai pas complètement la parole à Jean-Pierre parce que j'en suis incapable, à Jean-Pierre Rondeau parce que j'en suis incapable, mais je lui demande d'intervenir si je dis des bêtises. C'est-à-dire d'intervenir tout le temps, au fond. Je lis là diverses informations. Le Parlement adopte définitivement le texte sur le gaz de France. Euro Disney, perte annuelle de 73 millions d'euros. Les comptes d'Airbus virent au rouge vif, et je me dis, mais au fond, chaque fois que l'État s'occupe de questions économiques, ça devient une catastrophe, parce que le gaz de France, on sait, ça va probablement pas être un succès. Ce qui est certain, c'est que Euro Disney, l'État a fait tout ce qu'on pouvait faire dans des conditions absolument scandaleuses pour permettre l'implantation de ce truc. Les comptes d'Airbus, hein, virent au rouge, l'État a mis ses hommes, les a retirés, les a changés, etc.
Alors, Eurotunnel.
Eurotunnel, bien sûr. Bon, on pourrait alors là en citer la SNCF, qui est, on peut le dire, virtuellement en état de faillite. J'ai quelqu'un qui est un cadre supérieur de la SNCF qui m'a dit qu'il faut s'attendre à une véritable catastrophe économique, parce que tout le réseau est complètement cuit, foutu. Et la société qui est rail, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui s'occupe de ça, ne peut plus faire face aux obligations d'entretien du réseau, et la SNCF ne peut plus payer les loyers qui sont nécessaires. Donc on est dans une situation pré-britannique. Alors on voit d'une part que l'État ne peut pas intervenir et que le secteur privé, lui, n'intervient que comme prédateur, en somme, parce qu'il s'empare d'entreprises qui sont effondrées sur le plan économique, d'entreprises d'État qui sont effondrées sur le plan économique, ils en absorbent les dernières forces, et puis ensuite ils les abandonnent à volo. Et quelle position a le Front là-dessus?
Ces difficultés expliquent la raison pour laquelle tant de politiciens français se sont déclarés en faveur de l'Europe. C'est que, se sachant incapable de prendre des mesures courageuses et douloureuses qui seraient nécessaires, ils ont pensé qu'en les refilant à l'Europe, ils s'en déchargeaient. Mais l'Europe n'a pas la capacité de le faire. Et par conséquent, nous nous trouvons toujours devant le fameux dilemme. Est-ce qu'il est possible d'avoir des entreprises nationalisées auxquelles on impose des conditions d'exploitation qui sont des conditions concurrentielles ou paraconcurrentielles? Non. Eh bien, il semble que toutes les entreprises publiques ou les services publics se soient non seulement protégées, ont créé des situations de niche sociale, n'est-ce pas, mais encore qu'ils se servent du service public comme instrument de chantage contre l'État ou contre le gouvernement, quel qu'il soit, pour essayer de préserver leurs privilèges. Nous sommes dans une situation, dans un pays de privilèges, ils sont innombrables, et je dirais même que le nombre de privilégiés étant beaucoup plus important que celui de l'ancien régime, eh bien le manant s'en ressent, même si sa situation a quand même bien évolué. Alors voilà, c'est vrai, le dilemme, est-ce que l'on se met dans une situation de droit privé, en quelque sorte, au risque de voir échapper au contrôle de l'État des secteurs entiers qui touchent, on peut dire, à l'intérêt général, n'est-ce pas ? Ou bien est-ce qu'on maintient en place des structures qui sont dans le fond tombés sous la coupe de minorités syndicales ou politiques qui y font la loi et qui y font leur beurre. Ce qui est le cas, il faut le dire, de la CGT à EDF, à la SNCF, à la RATP et dans la plupart des grandes organisations dont nous payons les déficits qui s'accumulent. Ben, pourquoi ils s'accumulent ? C'est parce que nous ne les payons pas. Donc nous ne les ressentons pas dans la mesure où on les transfère sur la dette générale, mais en l'occurrence ce sont des affaires qui ne marchent pas. Et puis un beau jour, quand elle frôle de peu, de près, la réalité de la concurrence internationale, eh bien brusquement on s'aperçoit que des entreprises que l'on croyait fastueuses, comme ADS ou comme Airbus, on s'aperçoit qu'elles sont au bord de la faillite. Et qu'elles vont devoir licencier en commençant beaucoup de leurs sous-traitants.
Et tuer des PME, oui.
Comment ? Et tuer des centaines ou des milliers de PME.
C'est ce qui se passe avec
les sous-traitants. Voilà. Mais vous parlez des privilèges. Il y a des privilégiés dont vous avez oublié de parler parce que je sais ce que vous en pensez. Mais c'est aussi ces grands patrons qui se cooptent ce sont les premiers privilégiés au sein de ces entreprises.
Mais là, il y a un des anciens patrons d'Airbus qui vient de prendre la tête de PSA. On voit bien que c'est toujours les mêmes qui tournent. C'est pas ce moment-là, Ribard, parce que Pascal Séné.
Oui, mais comment ces gens-là osent-ils annoncer publiquement des rémunérations de l'ordre de celles qui leur sont versées sous une forme directe ou sous forme de stock-option? Il y a quelque chose qui aurait en d'autres temps jeté des milliers de gens dans les rues.
C'est ça, quand on pense que la révolution a été faite contre les fermiers généraux, on peut s'interroger sur ce qui se passerait aujourd'hui. Et quand on voit qu'on a l'impression que le pays est entre les mains d'une bande de fous furieux. Je vois la France Télécom va investir dans les droits cinématographiques. Alors, Patrick, qui est un spécialiste de France Télécom, quelle est leur dette à l'heure actuelle, France Télécom ?
Ben, ils ont commencé, je crois, Jean-Pierre Rondeau ne va pas me démentir, à 71 milliards d'euros, record du monde. Et ils ont remonté un peu la pente en rançonnant, vous faites bien de me lancer là-dessus, en rançonnant les gens comme moi qui avaient 3 jours de retard pour payer leur facture, ils exigeaient 18 mois d'abonnement d'avance. Et ils ont étendu cette mesure à tous les nouveaux abonnés. Alors ils ont un peu remonté la pente. Jusqu'à quel point, Jean-Pierre Rondeau ?
Non, ce qui est intéressant de savoir, c'est ce que dit Serge, c'est qu'aujourd'hui, ce qui a fait le fameux crack de l'année 2000, etc., c'était donc les TMT, technologies, médias, téléphonie. Et ce qui a fait le crack notamment, c'était la diversification et le fait d'oublier qu'on avait un métier principal, qu'on le faisait bien et qu'on allait ensuite s'investir. C'est le cas du Crédit Lyonnais, puisqu'on parle de cinéma. Le Crédit Lyonnais a été investi dans le cinéma aux États-Unis pour des raisons d'ailleurs assez que je raconterai pas ici, notamment parce qu'on prenait certains responsables et qu'on les emmenait voir tourner des films de fesses.
Les moteurs sont toujours les mêmes. Voilà. Mais là, en l'occurrence, on pourrait dire que s'il n'y avait pas le précédent du Crédit Lyonnais, bon, qu'il y ait un des responsables, un des caïds qui dirige France Télécom, qui se disent si je peux me taper 2 ou 3 petites starlettes en faisant payer les contribuables après tout. Bah oui. Mais là, il y a le précédent du Crédit Lyonnais. Donc on se demande si quelqu'un dirige dans ce pays, si quelqu'un a le droit de dire mais non, vous ne pouvez pas faire ça.
Quand j'étais jeune poujadiste, dans tous mes discours, je rappelais que d'Enguerrand, de Marigny à Semblançay, sur 13 ministres des Finances de la monarchie, 11 moururent pendus par décision de justice, un assassiné et l'autre banni.
Et c'est peut-être pas fini.
Voilà des gens qui savaient traiter les gens qui manipulaient l'argent. Et bien malgré ça, quand même, il y a toujours eu des fesses pour s'asseoir sur le siège encore tiède.
Faut croire que la place est bonne.
Oui, mais au moins, le bon peuple avait la satisfaction de voir que pour le prix des escroqueries qu'il avait subies, il pouvait les voir quand même la hare au col.
Alors, mais puisque vous abordez, Jean-Marie Le Pen, cette question qui me travaille pas mal, parce que j'ai fait un papier cette semaine en disant que quand on aura le pouvoir, une fois qu'on aura procédé aux pendaisons indispensables, on pourra passer à autre chose. Bon, ça c'est mon opinion. Mettons-nous dans l'hypothèse où vous êtes président de la République.
Puisque National Hebdo nous en fait la promesse.
Non seulement possible, mais probable. Est-ce que vous lancez j'aime pas le mot, mais je vais quand même l'employer, une épuration. En disant, il y a des gens qui se sont goinfrés pendant des années, qui sont des voyous. Il faut les punir, il faut les dépouiller. Je pense, par exemple, à... je vais pas dire de nom, parce que... il y a des gens à qui je pense... certains châteaux, du côté de Biti, par exemple, on pourrait dire, monsieur, on va faire de ça une colonie de vacances pour les gens que vous aimez tant, et vous, vous allez habiter dans une HLM de la Courneuve. Voilà. Il va vous rester de quoi payer le loyer.
Est-ce que c'est vous... moi, je pense qu'il faut, il faudra ouvrir le temps de la grande relève, comme disait un célèbre poète, et que toutes ces affaires dont on a bien vu qu'elles ont toutes avorté, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu de vraie condamnation. Et d'ailleurs, il faut le dire, que ces gens-là, quand ils se représentent au suffrage universel, eh bien, il se trouve qu'ils sont réélus de surcroît, n'est-ce pas? C'est le cas de M. Emmanueli, c'est le cas de M. Juppé et de quelques autres. Mais je pense que on peut parfaitement exiger que un certain nombre de gens rendent gorge et que les scandales qui ont été... Est-ce que l'état de notre droit le permet, malheureusement?
Rendez l'argent, comme disait Montaldo.
Absolument, rendez l'argent. Que des scandales comme le Crédit Lyonnais qui a dérobé 150 milliards de francs... Moi, je vous pardonnerai, mais moi, je ne parle qu'en francs. Parce que je considère d'abord la présence de l'euro comme provisoire, je la considère comme désastreuse, et je pense que les gens comprennent mieux quand on leur parle en francs.
Je parle en francs avec beaucoup de mes clients.
Parce que l'euro, c'est une manière aussi, quand même psychologiquement, de diminuer la charge des déficits et des détournements. N'est-ce pas? Et donc, moi, je parle plutôt en francs. Eh bien, que ce soit le Crédit Lyonnais, que ce soit la dette fabuleuse, alors là, dont vous parliez tout à l'heure en euros, mais qui est de l'ordre de 500 milliards, n'est-ce pas?
Pour France Télécom.
500 milliards pour France Télécom. Eh bien, et qu'il n'y ait pas de responsable. Voltaire disait, plus j'y pense et moins je puis songer que cette horloge marche et n'est point d'horloger. Ben, plus j'y pense et moins je puis songer qu'il y ait eu tant de voleurs et qu'il n'y a aucun condamné.
Et d'ailleurs, on n'a pas besoin de faire peur aux gens comme Serge de Bekech en parlant d'épuration. Hein. On est moderne, on va faire un audit, et puis il aura peut-être des conséquences judiciaires.
Oui, mais il y a quelque chose. Vous vous rappelez que le dernier audit n'a peut-être pas été pour rien dans le suicide de M. Bérégovoy. Car M. comment s'appelait-il notre Premier ministre à l'époque bon sang.
À l'époque de Bérégovoy?
Oui. Mais bien sûr.
C'était lui le Premier ministre.
Quand il s'est suicidé, il n'était plus Premier ministre.
Il y en a eu tellement.
Baladur. Baladur avait annoncé un audit. Et cet audit aurait dû être publié le lendemain de la mort de Bérégovoy. Et qu'on ne l'a pas publié, Balladur ne l'a pas publié de peur d'être accusé d'avoir conduit Bérégovoy à la mort comme Salengro en d'autres temps. Il n'a pas voulu être Salengrisé. Et or, il est probable, il n'est pas impossible de penser que c'est la crainte de l'annonce de cet audit qui ait poussé l'ancien Premier ministre à se suicider.
Le problème, c'est qu'un sondage aujourd'hui, et vous êtes encore en train de perdre des voix, et à cause de Serge de Bekech, puisque le MEDEF vient de faire un sondage, et 70% des grands patrons, c'est sorti aujourd'hui, hein.
Ah oui, oui.
70% des grands patrons vont voter Sarkozy.
Oui, j'ai vu le sondage qui est fait par un obscur. D'ailleurs, dans ces cas-là, ce sont pas les officines habituelles qui sont sollicitées, mais c'est une officine qui porte un nom britannique.
Mais est-ce que Sarkozy n'a pas un frère au MEDEF ou dans une officine patronale?
Non, il est sorti.
Mais comme Madame Parizeau, dirigeait l'officine qui me donnait 6% en 2001, elle n'ose peut-être plus maintenant faire le travail par l'IFOP. Alors, on fait le travail. Alors, j'ai vu ça. J'ai vu que Villiers et moi, nous avions 4% chacun d'opinion favorable chez les patrons. Alors, ce doit être certainement des très grands patrons.
Oui, c'est ce que je vous ai dit.
Parce que je crois savoir que les patrons moyens et petits.
Mais vos 4%, vous venez de les perdre
plutôt favorables.
Si j'ai bien suivi, il y aura quand même des mines de sel. Rassurez-moi.
Oui, mais tu peux être tranquille, il y aura des mines de sel. Donc, je me permets d'attirer votre attention sur le cas l'avocat de notre ami
Olmeta.
Le marquis d'Olmeta qui ne réclame pas, mais enfin aspire à prendre la direction des mines de sel quand vous serez au pouvoir.
Ah tiens, tiens.
Vous voyez, Bacon,
de potasse. Ah, voilà. Nous n'avons pas de sel, nous n'avons plus, mais de potasse. Ah, si, on en a, de sel, j'aime. Oui. Et on pompe ça maintenant avec de l'eau chaude. Il n'y a plus de mineurs. Ah,
bah, ça devient confortable. Non, c'est pas... la mère agitée nous téléphone pour nous rappeler quelque chose à propos du vote des Français d'acquisition. Elle dit qu'il y a déjà une dizaine d'années, un de nos amis avait tenu un bureau de vote au Tarteret. 91. De toute la journée, il n'y a pas vu un Français de souche et il se demandait l'utilité d'être encore présent dans ce genre de contrée. Au dépouillement, Jean-Marie Le Pen, 18%. Et elle dit, à mon avis, cela n'a pas dû s'arranger, donc tout espoir est permis.
Mais je crois que c'est vrai. Je crois que ça va être ça, la surprise. La surprise du chef. Et puis,
alors, vous voulez poser peut-être une question au président
sur Jean-Pierre Rondeau.
Non, pour l'instant, non. Moi, j'écoute avec beaucoup de plaisir. Donc,
alors, quelques mots sur la politique étrangère, si vous le voulez. Oui. Quel est votre sentiment après le résultat des élections aux États-Unis de mi-mandat, comme disent les gens qui
savent. Je crois que le président Bush a perdu son pari. Il s'est engagé personnellement de façon très physique, même dans cette campagne électorale pour les représentants et les sénateurs. Et bon, il a été mis en échec, semble-t-il, quand même, essentiellement sur sa politique dans le Moyen-Orient.
Et vous pensez que c'est bon pour nous, ça?
Écoutez, je ne sais pas si c'est bon pour nous. Je suis de ceux qui pensent, d'ailleurs, que ce soit lui ou un démocrate, la politique eût été la même, et probablement l'erreur la même aussi, parce que je crois que les grands États sont des monstres froids, et que les États-Unis avaient un intérêt direct à contrôler cette immense réserve de pétrole, puisque les Américains en manquent et que leur approvisionnement n'est pas sûr. Je crois d'ailleurs qu'ils évacueront l'Irak, la queue entre les jambes, comme l'avait prévu, je crois que c'est Hans Blix qui avait fait cette prédiction. Mais ils resteront dans la région. Ils resteront dans les Émirats, où sont d'ailleurs basés réellement où sont leurs bases arrière. Elles sont là parce que je crois qu'ils n'abandonneront pas. Alors le problème qui se pose là-bas, c'est évidemment de savoir si M. Bush va redorer son blason par des actions de force, en particulier contre l'Iran, par exemple, ou bien s'il va enregistrer le désaveu électoral et accepter dans le fond de sortir de son état de président d'une façon pacifique. Mais on peut tout craindre, parce que il est sûr que si on engageait des hostilités contre la Syrie ou contre l'Iran, on entrerait probablement dans une phase brûlante de la politique internationale, avec des conséquences étonnantes qui pourraient d'ailleurs aller jusqu'à la candidature de Chirac, selon moi, chez nous, n'est-ce pas? Mais c'est une autre question.
C'était ma dernière question.
C'est une autre question. Mais je crois qu'il y a nous qui avons encore conservé un certain prestige dans cette région. Je crois que nous devons agir de toutes nos forces pour éviter le pire. Et dans cette occurrence, que l'on s'engage dans des opérations de style militaire, dont le moins qu'elle pourrait produire, c'est une explosion du prix du baril de pétrole qui mettrait notre économie à genoux. Par conséquent, je préconise dans ce domaine-là d'épuiser toutes les possibilités d'accord ou de négociation, de discussion avec des États dans lesquels nous avons une plus grande entrée que ne l'ont les États-Unis et l'Angleterre.
Il y a un homme dont on parle beaucoup en ce moment qui est intéressant parce qu'il incarne la cohabitation, étant donné qu'il a été à la fois membre de l'Internationale Socialiste, puisque le parti qu'il dirigeait à l'époque était associé au Parti Socialiste Français, et l'ami personnel et chaleureux et généreux de Chirac. Et cet homme vient d'être condamné à la pendaison. c'est M. Saddam Hussein. Et à ma grande surprise, ni ses amis socialistes, ni son ami Chirac ne sont intervenus en sa faveur. Quelle serait votre position?
Ils se sont bornés à rappeler qu'ils étaient contre la peine de mort. Moi, j'ai fait un communiqué en disant que la justice d'exception qui avait condamné Saddam Hussein ne remplissait pas les conditions qui sont généralement exigées de la part des organes de droit, et que par conséquent il avait été jugé par un tribunal aux ordres d'une autorité d'occupation, et que par conséquent je ne l'obtenais pour nul et non avenu, en rappelant tout de même que les États-Unis ont engagé cette guerre sur des faux. Non seulement sur une fausse appréciation, mais sur des fausses affirmations, en rappelant que la première guerre avait été provoquée, ça a été perdu de vue par le scandale causé par le fait qu'on accusait les troupes irakiennes d'avoir arraché 50 bébés aux couveuses de Kuwait City, ce qui m'avait fait remarquer qu'il n'y avait plus de couveuses à Kuwait City que dans la région parisienne, n'est-ce pas? Et que c'est cela. Et on a su ensuite que c'est une officine de publicité américaine qui, pour 10 millions de dollars,
qui s'appelle...
avait fabriqué de toutes pièces ce mensonge qui a servi à obtenir la majorité au Sénat américain.
Officine qui s'appelle Hill & Knowlton et qui est aujourd'hui Jean-Marie Le Pen. Le Libre Journal l'a révélé dans son numéro 290, derrière Ségolène Royal.
Ah bah, tiens,
ce qui explique pourquoi elle marche au sondage et pourquoi elle déclare sur la Turquie, sur ci, sur ça, mon opinion sera celle des Français.
Il n'est pas exclu qu'elle soit jetée hors de la couveuse, elle aussi.
C'est ça. Alors, faire grief, n'est-ce pas? Dans le fond, le seul grief qui restait contre Saddam Hussein, c'est d'avoir été un dictateur dans une région où il faut bien dire que c'est le procédé habituel de gouvernement. Le procédé de dévolution du pouvoir étant généralement le meurtre, ceci on peut dire ancestralement. Mais les Américains ont voulu une fois de plus donner des leçons de morale, ce n'est pas le seul endroit où ils en ont donné, et le piège est en train de se refermer sur eux, et ils devront, à tout risque, même pour nous, perdre la face d'une façon qui peut être dramatique si on la replace dans le cadre de l'affrontement des civilisations, si vous voulez, même si nous n'avons pas approuvé la politique de M. Bush, et nous l'avons même condamné, puisque j'ai même dit que, pour moi, objectivement, M. Bush était un criminel de guerre, puisque si on qualifie crime de guerre toute action meurtrière engagée contre des civils dans le but de faire plier les gouvernements dont ils sont ressortissants, eh bien, est un crime de guerre. Alors ça, il me semble que la guerre d'Irak donne de larges exemples de ces crimes, et que le président Bush n'est pas parce qu'il est baptiste exempté de responsabilité de cet ordre.
Alors une dernière question, comme je vous l'ai dit, pour finir, est-ce que vraiment vous pensez que Chirac sera candidat?
Eh bien écoutez, Jacques Chirac est un opportuniste. C'est un homme qui, s'il voit une fenêtre de tir, s'il voit une occasion de se présenter, le fera. Et il peut le faire dans une hypothèse, qui c'est précisément d'une aggravation de la situation internationale, où il faut bien le dire, été plutôt moins inefficace que dans d'autres circonstances. Et d'ailleurs, on le voit se mettre en place assez prudent, car s'il a été un très mauvais dirigeant, il a toujours été un excellent candidat. J'en ai encore l'eau bouillante sur le dos.
Est-ce que c'est constitutionnel?
Comment?
C'est constitutionnel?
Oui, il peut se représenter. Il peut se représenter, et il le ferait dans le cas où il pourrait dire au peuple, dans le fond, on ne change pas de mulet ni de mulot au milieu du gué, et par conséquent, faites-moi encore confiance quelques mois, quelques
années. Faites-moi confiance.
Je vais passer le gué et j'en passerai ensuite, comme lui a dit d'ailleurs François Mitterrand au moment où il l'a piégé en 88, lui laissant croire qu'il allait mourir immédiatement de son cancer, et l'autre a tenu 7 ans de plus, qui est quand même un des tours de salaud les plus extraordinaires qui ait jamais été réalisé. Alors moi, je réponds à votre question, oui, je crois que Jacques Chirac peut être candidat, je suis certain qu'il y pense, et qu'il peut être l'homme de la surprise.
Alors on aura
et
donc
moi,
la revanche.
Ce serait tout à fait ce que je souhaite. car je sais que l'homme a biaisé les élections de 2002, que sans ses magouilles et celles de son cabinet Villepin, Saint-Cernin et compagnie, il aurait été troisième en 2002. Et il y aurait eu un véritable débat, un véritable choix proposé aux Français entre la gauche de M. Jospin et la droite nationale de Jean-Marie Le Pen. Alors que ce débat n'a pas eu lieu et que Chirac a emballé le tout dans du papier de Water, n'est-ce pas, pour se faire élire. Et je crois qu'une revanche de 2002 serait, je crois, une manière symbolique de laver le passé, de le purger.
Merci Jean-Marie Le Pen.
Un auditeur avisé,
oui.
Excusez-moi Serge, un auditeur avisé nous donne les horaires des BBR. Alors, vendredi 10, 13h à 22h30, samedi 11, 8h30 à 20h30, et dimanche 12, 8h30 à 21h30.
Jean-Marie Le Pen nous a dit qu'il serait personnellement présent les 11 et 12. Hein.
Des discours à 16h dimanche, c'est ça.
Et on a eu une protestation par fax. Ouais. Ce n'est pas Le Pen qui a inventé la femme au foyer. C'est moi, et c'est signé Docteur Petiot.
Mais Landru, non, alors.
C'est plutôt Landru,
Docteur Petiot, c'est moi qui coupe les femmes en morceaux, et les hommes, je les dissous dans la chaux.
Voilà. Sache, comme il est 8h moins 2, je vous demande la permission,
allez-y,
à 2 minutes du journal télévisé, de dire aux téléspectateurs ce que Jean-François Copé pense d'eux, et il l'a écrit dans son livre récent, Promis, j'arrête la langue de bois chez Hachette. Je cite: pour les Français, l'information est au journal de 20h où tout est dit. Et pour beaucoup d'entre eux, on ne va pas chercher plus loin. Alors j'espère que la plupart de nos auditeurs n'appartiennent pas à cette catégorie méprisable, qu'ils vont retourner la télé contre le mur et qu'ils vont rester avec nous. En particulier pour m'entendre, je peux enchaîner, Serge, avant que quelques-uns ne désertent quand même et qu'il ne soit trop tard pour les toucher, enchaîner avec la promotion du Libre Journal imprimé numéro 391 qui vient de sortir des presses aujourd'hui même, non sans bien entendu la promotion des BBR qu'on aurait passé en couleur si on avait les moyens. L'éditorialiste n'en est nul autre que Victor Hugo. Et ça, c'est quand même encore mieux que la couleur que tout le monde se
c'est
paye.
C'est vous, président, qui m'avez inspiré ce choix, parce que quand j'ai entendu votre discours, lorsqu'on a été, la presse amie a été reçue chez vous la semaine dernière, je ne sais pas pourquoi il m'est venu dans la tête ultima verba. Je ne sais pas pourquoi ces deux mots me sont venus. Et en rentrant de chez vous, je me disais, mais pourquoi je faisais ultima verba? Pourquoi? Et puis, je me suis souvenu que c'était quand même de Totor. Et alors, je suis allé chercher mon Totor intégral. Et c'est un poème des châtiments qui est extraordinaire parce qu'il est d'une violence. Et les deux premières strophes décrivent exactement la situation française d'aujourd'hui.
Les pages 4, 5, 6 de ce numéro du Libre Journal décrivent la situation dans les banlieues et il va sans dire que nous ne la décrivons pas tout à fait comme nos gros confrères, et en particulier ce qui m'a personnellement frappé parce que je suis tombé de la lune, j'étais pas au courant, c'est la description, ça rejoint votre exposé tout à l'heure Jean-Marie Le Pen sur les émeutes de novembre. Vous avez fait remarquer qu'il y avait eu plusieurs centaines de policiers blessés et aucun jeune, et on aurait pu vous objecter à ce moment-là, oui, mais les deux du Méchoui de Clichy-sous-Bois, on a accusé, il y a des policiers qui sont inculpés pour les avoir terrorisés, pour chasser jusque dans ce transformateur électrique. Nous démontrons centimètre par centimètre, mètre par mètre dans le Libre Journal que ce transformateur était à au moins 1 kilomètre du terrain vague où ils ont été repérés, que les policiers ne les poursuivaient pas. Bon, je ne continue pas. Il faut se procurer ce numéro du Libre Journal parce que vous ferez comme moi, vous tomberez sur les fesses et vous regretterez pas vos 5 euros. Alors, je ne poursuis pas dans le détail. Si, il faut dire quand même que notre divin marquis, dont tout le monde a apprécié l'esprit ce soir, non content de faire le portier, d'ouvrir les fenêtres et de les refermer, il a fait des remarques intéressantes, eh bien, il nous raconte son pèlerinage à Lourdes, 44 ans après, notre divin marquis, comme son nom l'indique, revient de Lourdes, et son reportage est tout à fait passionnant. On vient de rééditer Fantasia chez les Ploucs, Igor Verhoff vous dit tout le bien qu'il faut en penser, en Afrique...
Vous connaissez ce livre, Fantasia chez les
Ploucs. Merveilleux. Folio Junior, à bon marché, donc les jeunes vont pouvoir s'instruire. Tradition africaine contre le viol, le repassage des seins, c'est...
Nous avons les mêmes tétines.
Bon, on a notre correspondant à New Delhi. frappe. Notre correspondant à Liège, en Belgique, commente brillamment les élections du 8 octobre. Bon, il y a 24 pages. Bon, évidemment, la messe en latin. François Brignot, Conque, sur 3 pages.
Ça, c'est du vol. Hein. On a volé des dessins de Conque.
On les a empruntés. Tout le monde, il est français.
Puis-je me permettre de faire une petite exception en faveur de la presse issue, comme on disait autrefois? C'est un reportage sur Bobigny qui est paru dans Pourri Match.
Ah oui.
Qui est débarrassé aujourd'hui de son Genestar. Parce qu'on peut peut-être avoir un peu de nouveau considération pour ce journal. Eh bien, un reportage sur Bobigny, le tribunal de Bobigny, et comment ça s'y passe, c'est quelque chose d'hallucinant.
Et vous vous souvenez que Maud Marin avait témoigné aussi, elle, en tant qu'avocate.
Et qu'elle en a été chassée. Elle a été chassée du barreau de Bobigny, qui est une colonie soviétique, n'est-ce pas? Ainsi d'ailleurs que du syndicat de la magistrature.
Bah, vous remarquez, Serge, que Jean-Marie Le Pen, contrairement à vous, n'a pas peur de faire la promotion du libre journal imprimé. Je le remercie et je conclue en disant que ce numéro 391, on peut le retrouver en partie sur notre site, le site de nos amis de francecourtoise.info, qui par ailleurs vont rediffuser en permanence l'entretien que nous venons d'avoir. On peut donc se procurer ce numéro 391 contre 5 euros ou un carnet de timbre de préférence. On peut s'abonner pour un an pour 100 euros à l'ordre de SDB, 4 places Franceliste, 75 010, Paris. Jean-Marie Le Pen, vous étiez accablé de livres, disiez-vous tout à l'heure. J'en ajoute un dans la balance, bat ta femme tous les jours. J'espère que Jenny appréciera.
Je ne sais pas pourquoi, elle le sait.
Merci d'être venu vous détendre avec nous et nous parler, comme je crois que vous parlez sur peu de radio, parce qu'on ne vous en donne pas l'occasion.
Oui. Parce qu'on vous coupe la parole toutes les 30 secondes, c'est exaspérant de vous écouter sur les gros médias. On vous coupe la parole toutes les 30 secondes.
C'est... Surtout quand c'est M. El Kabach, une spécialité, j'ai pas osé lui faire encore la célèbre réplique « Taisez-vous, El Kabach !»
Il faudra le faire.
Mais il m'invite une fois tous les deux ans, alors je veux pas risquer mon prochain interview de 2008.
Merci beaucoup. Et nous recevons maintenant deux autres invités qui ne vous sont pas totalement inconnus. Pierre Descaves, qui est membre du bureau politique du Front National, mais c'est pas pour ça que je le reçois. Et puis mon excellent camarade Dominique Hérulin, que j'ai déjà reçu, mais comme il va pas tarder à regagner sa pampa argentine, on lui donnera la parole une dernière fois. Et si vous voulez le voir, d'ailleurs, il sera au stand du Libre Journal, au BBR, vendredi, samedi et dimanche. N'est-ce pas?
Oui, bien sûr. Enfin, je peux ouvrir la bouche.
Ah oui. Alors, d'abord, je me tourne vers Pierre Descaves, parce que Pierre, lui aussi, fait un bouquin dont le titre m'emplit de joie et en même temps de regret, parce que c'est vraiment un titre que j'aurais aimé donner à un de mes bouquins. La salsa des cloportes, préfacé par Bruno Gollnisch, avec 18 illustrations de chars, de notre char, surtout la char de Présent et de Rivarol, mais qui est une dessinatrice
formidable.
Ouais. Je ris parce que justement je tombe sur un dessin délicieux, c'est une petite fille qui, sous les yeux des deux mariés de Bègle, montre à deux petits garçons qui disent ils veulent pas que je joue avec eux, ils disent que c'est pas un jeu de filles. Voilà. Et Kouchner dit présenter armes à deux bisasses qui tendent des sacs de riz. Voilà. Alors, c'est Pierre, il faut dire que c'est pas le premier livre que vous écrivez.
Oh, on se tutoie.
On se tutoie, hein, parce que c'est vraiment, de toute façon, on va se couper au bout de 3 minutes.
À mon âge, tu tutoies tout le monde, d'ailleurs, parce que...
Alors, c'est pas le premier livre que tu écris, mais tu avais fait La guerre des immondes, qui était pas mal non plus, des rêves suffisamment grands, avec aussi des dessins de chars. Mais c'est la première fois que tu vides ton sac, si j'ose dire.
Ah, complètement.
Parce que j'ai l'impression que tu étais plutôt...
dans tous les domaines.
Tu le sentais plutôt... Je dirais retenu, enfin tu...
Oui, j'avais des mandats politiques et la retenue venait du fait que je ne voulais pas mêler le Front National, qui est un parti politique, à toutes mes turpitudes, et Dieu sait s'il y en a eu, car comme je le dis, ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille, ça a été un torrent tumultueux.
Et alors justement, comment... Parce qu'il y a dans ton personnage, enfin dans ce que tu es, il y a un grand mystère. Alors, tu es un expert, comment appelle-t-on ça, expert comptable.
Oui.
Et assermenté, je ne sais pas si ça porte un nom.
Expert judiciaire. Oui, pendant 44 ans, voilà. J'ai d'ailleurs été le doyen aussi. Je suis souvent le doyen maintenant.
Alors, d'une part, on a donc un monsieur qu'on imagine nourri avec des parapluies tous les matins. Des manches de lustrine, un rond de cuir sur son fauteuil et qui aligne des colonnes de chiffres. Et puis d'autre part, il y a un Pierre Descaves qui est un combattant, mais quand on dit un combattant, c'est un vrai combattant. C'est un combattant qui porte des armes, qui se bat, aussi bien d'ailleurs dans les armées régulières que dans la clandestinité. Un vrai rebelle, un vrai résistant et pas un rebelle de boîte de nuit. Comment on peut arriver à faire cohabiter ces deux personnalités complètement antagonistes?
Je crois pas. Antagoniste n'est pas le terme. J'ai fait des études, j'ai réussi dans mes études, j'ai fait du syndicalisme, j'ai réussi dans le syndicalisme. Il s'est trouvé que, une circonstance curieuse, j'ai fait mon stage d'expert comptable chez un expert judiciaire. Et ça m'a plu, j'étais docteur en droit, ça m'a plu. Donc me voilà, d'une part, expert judiciaire, et d'autre part, je suis pied noir.
Non.
Et donc, comme mon voisin d'ailleurs,
Jean-Pierre Rondeau. J'ai peine à croire.
Et donc, me suis trouvé au confluent de deux situations. La première, qui était ma situation professionnelle, personnelle, comme j'étais, je crois, assez actif, je suis devenu président des experts comptables diplômés. Je suis devenu trésorier de la compagnie des commissaires de société.
Enfin, écoute, tu conviendras que tout ça, ça explique. C'est pas un chemin qui mène forcément à la résistance armée.
Oui, mais parce que j'étais au confluent, je t'explique. Qu'est-ce qui s'est passé parallèlement? Étant pied noir et mes amis étant dans l'obligation de se battre, j'ai estimé de mon devoir d'agir aussi. Et donc, au lieu de faire ma présidence des experts comptables, j'ai été transmis au camp de Saint-Maurice-l'Ardoise.
Et c'est là que tout a commencé. De l'association des détenus de Saint-Maurice.
Voilà, et c'est là que tout a commencé. Car à partir du moment où j'étais au camp, je n'ai pas plus voulu y rester, donc je me suis évadé et je suis devenu un expert clandestin. Et comme je ne voulais pas non plus rester sans me battre, je suis devenu un combattant de l'OAS. Voilà comment tout s'est enchaîné, à la fois professionnellement, j'étais expert judiciaire. D'ailleurs, je dois dire, il y a eu quelque chose quand même. Ma présidence a duré 2 ans, de 60 à 62. Pendant ces 2 ans, on n'a pas nommé un nouveau président, alors que j'étais en fuite. Condamné à 5 ans pour mon évasion de Saint-Maurice-l'Ardoise, on ne m'a pas remplacé. Donc j'étais toujours président des experts comptables diplômés en fuite pour cause d'évasion de Saint-Maurice-l'Ardoise. Voilà comment ça s'est enchaîné.
Et alors après, il y a un côté un peu échevelé, oui, un côté un peu irrationnel, enfin fouillis dans, je sais pas si on peut employer ce mot-là, mais par exemple, tu es reçu à la Knesset.
Oui, mais bon, ça c'est bien après.
Bien plus tard, bien sûr.
Quand j'ai été député là.
Tu es victime d'une tentative de débauchage de la part de Pasqua.
Oui. Il s'est trompé.
Oui, ça, évidemment, ça prouve qu'il était moins bien informé qu'il prétendait l'être. Hein,
ça, parce c'est
que,
certain.
L'ancien ministre de l'Intérieur, il aurait dû savoir que là, il avait peut-être pas mis le... Enfin, dirigé son viseur sur le bon bestiaux.
Oui, j'avais déjà fait mes preuves, puisque je raconte l'attentat de Pont-sur-Seine et ma participation.
Oui, c'est ça.
Et là, je raconte des choses qui auraient dû l'inquiéter.
Ce qui est très curieux, c'est que... tu as même dans les activités clandestines, tu gardes l'image de quelqu'un de sérieux, de quelqu'un de posé. Combien de fois on m'a dit, au Front National, oui, c'est tous des excités, etc., etc. Bon, mais alors, Pierre Descaves, lui, ça, voilà un homme sérieux avec qui on peut parler et tout. Et à chaque fois, comme si, à chaque fois, j'ai envie de leur dire, mais attendez, mais si vous saviez à qui vous avez.
Ils vont le savoir maintenant, puisque là, je dis tout.
La première fois où tu prends la décision de basculer vraiment dans l'action, qu'est-ce qui...
Ce qui m'a motivé, c'est le retour des pieds noirs du Maroc et de Tunisie. J'ai vu qu'on recevait ces gens d'une manière tellement abominable que j'ai pris contact avec des gens et que nous avons créé l'Enfanoma, qui a été la première association de rapatriés, avec, hélas, le colonel Battesti, qui s'est révélé plus gaulliste que patriote. Et donc, ça a été le point de départ. J'ai commencé à faire des réunions pour défendre l'Algérie française. J'étais avec Poujade, qui lui aussi était marié avec une femme pied noir. Et donc, je l'ai aidé dans son combat, à la fois contre les polyvalents par profession... Et par patriotisme, je l'ai présenté, par exemple, au général Végan. Car moi, j'étais à un niveau tel que j'avais des contacts avec des officiers supérieurs, et j'ai pu le présenter. Et j'ai assisté à l'entretien. Nous étions que trois, Poujade, Végan et moi. Tout ça, et parallèlement, si tu veux, pourquoi je crois que j'ai été assez sérieux, j'ai quand même, pendant toute la durée de la guerre, de 59 pour moi à 62, j'avais 200 hommes sous mes ordres à Paris, et nous avons fait pas mal de boulot. Je ne dis pas tout. Je ne dis pas tout, parce que tous les gens... qui étaient avec moi, n'ont pas révélé leur participation, et c'est pas à moi de le dire.
Mais tu as un jugement quand même assez sévère, hein, dans l'ensemble, sur l'activisme, sur les activistes.
Non, je dis de toute manière qu'il vaut mieux être activiste que passiviste ou opportuniste. Ça, c'est clair.
Mais enfin, une fois qu'on est activiste,
J'ai vécu les événements. Par exemple, j'ai vécu le putsch, mais au sommet, puisque j'étais en relation avec Sergent et que quand il est parti pour Alger, il nous a donné les instructions. J'étais en rapport avec le colonel de Blinière, dont on a entendu parler. J'aurais pu faire une grosse bêtise que j'ai pas faite, heureusement, je le raconte, c'est la prise de Chartres.
Oui.
Où il m'a manqué que quelques armes pour pouvoir prendre Chartres, parce que Sergent m'avait... Qu'est-ce que j'aurais fait avec ça, grand Dieu? Sergent m'avait donné les plans, m'avait donné les endroits où je devais aller, j'étais paré à fond, et avec mes 200 gars, moi, je pouvais prendre Chartres comme un rien. Bref, il y a eu cet épisode de ma vie dans laquelle j'ai fait sérieusement mon travail de clandestin révolutionnaire. Et j'ai eu quelques... tu dis j'ai été sévère. Non, j'ai pas été sévère. Je dis que le commandement, qui était sous les ordres des généraux, a fait une erreur au départ. Ils ont refusé de prendre les civils avec eux. Et en Algérie, les civils étaient armés, il y avait des unités
territoriales,
sérieuses, et par conséquent, il y avait Ronda, Marcel Ronda, il y avait Serge Jourde, mais Serge Jourde était à Paris parce qu'il avait été expulsé, il était avec moi. Je raconte ça aussi, Jourde a passé 48 heures avec moi, puisque le putsch a été repoussé de 24 heures. Et donc, l'erreur a été là. Bon, ici, à Paris, il n'y avait qu'une équipe, il n'y avait qu'un seul réseau civil, c'était le mien.
Qu'est-ce qui a manqué pour faire tomber le régime?
Oh, que le para arrive. Écoute, j'ai trouvé que ce qui était dramatique, c'est que j'ai la plus grande admiration pour Jouot. Jouot était le chef d'état-major de l'armée de l'air. Il avait vraiment tous les pouvoirs. Il débarque en Algérie et ils n'ont pas été foutus de retenir les avions pour pouvoir faire la deuxième partie qui était envisagée. car la deuxième partie consistait à parachuter les paras sur Paris, et nous on montait avec les chars. Il y avait aussi les chars de Van Ixem qui descendaient d'Allemagne, et il y avait le régiment de chars qui était à côté de Paris, là où on faisait, qui venait aussi. Mais on prenait Paris en 3 coups de cuillère à peau, et on avait tout le monde qui se ralliait.
N'oublie je me souviens que c'était l'époque où Debré disait à pied, à cheval, en voiture.
Oui, mais trop tard, 48 ouais. heures après, il l'a dit. Ouais. Nous, on faisait ça la veille. Et crois-moi, le Debré, il n'aurait pas eu le temps de pousser sa gueulante parce qu'il aurait été en prison.
Et ça, ça veut dire que c'est une faute de commandement, au départ.
Pas une conception qui n'était pas révolutionnaire. Je crois que si au lieu d'avoir comme chef le général Charles, si on avait eu directement le général Salan, peut-être que ça aurait changé, mais moi j'étais plutôt pour les colonels, excusez-moi, pour la hiérarchie.
Même pour les capitaines, avec
oui,
sergent.
Hein. Sergent était le secrétaire du groupe des colonels, mais les colonels étaient des vrais révolutionnaires.
Alors tout ça, c'est raconté avec la fougue et la verve qu'on le connaît.
Ah, ce que j'ai sur le cœur depuis longtemps et que je viens de déverser seulement.
Mais comment se passe pour toi le retour? Alors parce que c'est ça qui me frappe beaucoup. C'est, voilà, d'abord on a affaire à un expert comptable, à un expert judiciaire qui d'un seul coup bascule dans la clandestinité violente. Hein, je ne faut pas se tourner dessus. Et puis ça se termine et pouf, il redevient tranquillement expert judiciaire, expert comptable avec une étude. Je ne sais pas si ça s'appelle une étude, un cabinet. Enfin.
Oui, j'avais mon cabinet bien sûr.
Et alors c'est curieux parce que Jean-Pierre Rondeau est à côté de toi et Jean-Pierre. Toute proportion gardée, pour des raisons d'âge notamment, hein. C'est un peu la même chose quand
la
même.
Même chose, oui, sur bien sûr, je n'ai pas été de la même façon impliqué, mais j'étais impliqué en Algérie, puisque j'avais un père qui était, lui, impliqué dans l'OAS, et donc moi-même, j'ai fait quelques petites bêtises. Et puis après, ben, ça a été mon militantisme en arrivant en France. Je vous racontais la Fédération des étudiants nationalistes, etc. Enfin, toutes les batailles de l'époque. Et c'est vrai que j'ai eu du mal à mélanger. Là, je le fais beaucoup plus à tête ouverte. Enfin, par exemple, en participant à cette émission. Mais tout à l'heure, je disais à Jean-Marie, j'étais au Crédit du Nord, il y avait les comptes du FN. Hein, ouais. Voilà. Et moi, donc j'étais obligé de planquer toujours un peu, un peu comme mon ami.
Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'aspect psychologique de ça. À quel moment se passe le coup de rein qui fait qu'on arrive à surmonter? Parce qu'on a connu plein d'anciens détenus, d'anciens combattants, d'anciens. Je pense, on parlait, Jean-Pierre nous racontait l'autre jour l'extraordinaire tragédie de
Claude Ten. Marc Thénard
Marc
la Légion.
Thénard, ouais. Et bon, lui, c'est un homme qui a été détruit, broyé par cette aventure, il s'en est jamais remis, encore qu'il s'en est remis sur le plan de l'honneur personnel, il a été absolument nickel, mais il était sorti de l'existence normale, littéralement. Et ce qui me fascine, c'est la capacité que certains ont, dont toi, dont Jean-Pierre, après avoir vécu des expériences comme ça, de se retrouver dans la vie normale et puis de reprendre une existence paisible.
Je peux répondre à cette question. Il y a, quand on s'engage dans la clandestinité, on signe pas un bulletin d'adhésion. Et quand j'ai vu que nous avions perdu en Algérie, que les copains étaient rapatriés, j'ai pas pensé qu'il pouvait y avoir une suite, et j'ai pas pensé que la vengeance était un élément qui pouvait amener quelque chose de concret. Donc la démobilisation s'est faite parce que j'ai décidé d'arrêter parce qu'il n'y avait plus de combat. Pour moi, le combat était terminé. Hein, juillet 62, tout le monde rentre. Bon, je me dis, il faut que je reprenne une vie normale. Et là, j'ai eu une chance. Ma chance, ça a été que j'avais eu, à l'époque où j'étais pas encore en fuite, une énorme expertise judiciaire, fiscale, 30 sociétés qui étaient impliquées dans des fraudes fiscales à la TVA. J'avais bien entendu, au cours de mes possibilités, puisque dans la résistance, il n'y a pas que des moments de travail, il y a aussi des moments de repos, et j'avais fait mes rapports, moi j'étais prêt.
Mais comment que tu étais dans la clandestinité, que tu continues à faire des rapports.
Qu'est-ce que tu veux faire dans la journée? Moi, j'avais le soir des rendez-vous avec des copains, mais dans la journée, j'étais bloqué. Alors, je me baladais, tout en étant recherché par toutes les polices, je me baladais aux alentours du palais de justice et je rencontre le greffier de mon juge. Et comme on avait eu précédemment des conversations, je savais qu'il était algérie-française. Alors je le vois, je lui dis « Ah bonjour, ça va ?» Elle me dit « Monsieur Descaves, comment allez-vous et les rapports ?» Je lui dis « Les rapports, je les ai terminés, mais je suis condamné à 5 ans de prison, je suis là par contumace, moi. » Il me dit « Comment, vous êtes condamné ? Mais on n'en sait rien, mais personne ne sait rien au palais de justice. » Moi, j'ai tout de suite dit, alors je peux vous les apporter, ces rapports, il n'y a pas de risque. On me dit non, pas à ma connaissance. Et c'est comme ça que je me suis rentré dans la vie, de nouveau dans la vie. J'ai porté mes rapports, j'ai signé les ordonnances du juge disant que j'avais déposé mes rapports. Et un peu de temps passé, ça c'était en 63-64. Et en 66, l'affaire arrive à l'audience. À l'audience, un des avocats voit le rapport de l'expert judiciaire Pierre Descaves. Il se trouve qu'il avait été amené, lui, à défendre des gens Algérie française. Et donc, il demande immédiatement au président de réunir en chambre du conseil. Et en chambre du conseil, il leur dit « Écoutez, vous, votre affaire, vous ne pouvez pas la juger. L'expert n'est pas libre, car il est condamné à 5 ans de prison et qu'il est contumax. » Alors, grand affolement, le président suspend l'audience. Et après, ça commence à s'engueuler. Parce que le ministre de l'Intérieur engueule le ministre de la Justice en disant « Mais qu'est-ce que c'est ? Voilà un expert qui est condamné et que vous recevez, vous signez rapport. » Et l'autre, il dit « Et vous, qu'est-ce que c'est que cette police ? Il rentre au palais de justice, il se balade dans Paris et vous faites rien. » Et on décide, cet expert, il faut trouver une solution. S'il se rend, il n'est plus contumax. La contumace tombe et il redevient
un citoyen
normal qui est poursuivi et qui bénéficie de la présomption d'innocence.
Ça, c'est extraordinaire parce que on pourrait dire que c'est exactement le contraire de ce qui est arrivé à Dominique Hérule.
Ah oui.
Parce que lui, au moment où la police, la gendarmerie, enfin tout l'appareil policier de la Mitterrandie décide qu'il est l'homme à abattre, l'homme à traquer, il a absolument rien à se reprocher en réalité.
Mais j'ai rien à me reprocher, mais contrairement à notre ami, enfin à toutes ces prestigieuses personnes qui sont passées, moi je peux parler de tous ces itinéraires, mais alors je vais le parler à l'échelon. J'étais un parachutiste du putsch, ok, j'étais pas un colonel, je voyais pas les grands généraux, moi j'étais donc,
à la base.
Et je le raconte très bien à tous ceux qui veulent, parce que ça me fait marrer, on dirait que les gens ont lu mon livre, où ils ont passé par les mêmes itinéraires. Ouais. Et ensuite, quand même, il y a eu, sur de l'OS sur la France, bon, on sait que c'était pas aussi simple que ça, de toute façon. Bon, maintenant, tout le monde a oublié, comme on dit très justement, il y a eu un moment où le combat devenait absolument impossible. On a essayé, avec la campagne Tixier mouvementée, de faire libérer nos amis emprisonnés, et avec une certaine réussite, finalement. Mais en fait, moi, personnellement, j'étais obligé de partir, déjà. Puisqu'on avait un peu cabossé trop les gentils communistes et gaullistes pendant cette campagne mouvementée, je le rappelle. Bon, derrière, moi je reviens des États-Unis, je reviens et je vis effectivement, toute ma vie était pas comptable, mais dans la sécurité ou dans le risque calculé. Bon, donc, je sais pas, peut-être à cause de l'espoir de mon frère à Colvézi, ça a pu paraître un truc bien qui plairait au coco, puisqu'on attaquait mon frère, le nom était sur toutes les lèvres, et puis là, c'était bien d'avoir
le frère qui était terroriste d'un seul ouais. coup, et ça zondait, on m'a donné des épaules que je n'avais pas, mais en se foutant de ma gueule, parce que les gendarmes qui ont accepté ce truc étaient tout à fait persuadés que je n'étais rien du tout.
Oui, alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est que d'une part, il y a quelqu'un qui a vraiment fait des choses à l'aune de ce qu'on vivait à l'époque répréhensible, et qui se pointe tranquillement au palais de justice, qui continue à poursuivre ses travaux d'expert judiciaire, et puis l'autre qui n'a absolument rien fait, en tout cas toujours à l'aune de ce qui se disait à l'époque, et en tout cas qui n'a pas fait ce qu'on lui reproche, et alors lui il est traqué au point qu'il est obligé de partir à l'étranger. On finirait presque par se poser des questions sur la fiabilité du système, non?
Voilà, c'est pas un système. Du moment qu'on n'a pas pu, d'abord on voulait m'arrêter soi-disant, mais on m'avait dit qu'il y aurait bavure, ce qui m'a donné un mauvais réflexe, et que je n'aurais peut-être plus maintenant, puisque les années passent, et donc par mauvais esprit de filer par les toits. Mais je partais pour 15 jours, à mon avis. Hein. En fait, ouais. On m'accusait d'avoir attaqué la caserne deux fois, entre autres choses. Mais non, après c'est terminé. Après, on a rajouté que je voulais tuer Mitterrand.
Tant qu'à faire.
On est devenu complètement parano. Et alors, j'ai été interdit de séjour, mais il y a eu quand même des embellis. Les deux septennats de Mitterrand, il était absolument impossible d'envisager un retour en France. Donc j'ai profité de la lucarne grâce à un énorme, enfin, d'avoir été blessé en mission au Brésil. Jean-Marie qui était là tout à l'heure est la personne qui s'inquiétait de mon sort et qui m'a fait revenir. Hein, je vous dis pas dans quel état j'étais. Mais donc je pensais que de revenir très blessé vous évite des humiliations. Hein, parce que moi je veux bien revenir m'expliquer, mais je n'aimerais pas qu'on vienne me mettre les menottes, me traiter comme un bestiau, etc., que j'ai plutôt l'habitude de mettre mon poing dans la gueule aux gens qui m'ennuient. Et donc je suis revenu très blessé, assez inconscient d'ailleurs de ce qui s'est passé, et j'étais libéré. Ah oui, j'avais eu 20 ans par Contumace.
Par Contumace, là, tu es battu, Pierre. Hein. Ah, ça a été 5 ans.
Mais moi, j'ai pas voulu tuer. Quand j'ai voulu tuer seulement De Gaulle.
Ah oui, c'est vrai.
Ah ben, attendez, j'étais... on va pas revenir là-dessus. Moi, j'étais pas... Je suis quelqu'un qui a été aussi dans cet ordre d'idées. Mais en dehors de ça, pour continuer, les 20 ans par Contumace, ça a été fait en 94, juste au moment où les socialistes s'en allaient, pour me barrer encore complètement la route. Qu'est-ce que vous avez envie de venir si vous savez que vous avez en principe 20 ans je suis revenu parce que on m'a dit, le président Chirac est là, les socialistes n'existent plus, on va s'occuper de toi pendant que tu répares, etc. Donc je suis arrivé, je me suis retrouvé pas du tout au Val-de-Grâce comme on m'avait dit, mais à l'hôpital de Fresnes, et encore en me débattant, hein, parce que... Et à l'hôpital de Fresnes, on m'a oublié, il y avait grève générale, c'était là décembre 95. Et d'un seul coup, alors que mon avocat, le prestigieux Trémollet de Villers, là, qui perd un peu tous ses procès...
je te laisse la responsabilité de cette affirmation.
Il va m'en vouloir.
Ah oui,
il y a des chances.
Je crois que c'est la guerre, surtout qu'il est corse, attention. Bon, en fait, il faut reconnaître qu'à Fresnes, on disait, mais il était là tous les jours, c'était l'avocat de Toubier, il doit être drôlement cher, hein, tout ça. On disait, les gardiens me
considéraient... Ça, on ne peut pas lui enlever, c'est un homme courageux.
Ah oui, oui. Oui. Puis il y a une grande famille en plus aussi. Et je savais pas qu'il y avait autant d'enfants. Mais le truc est que je me retrouve donc oublié à Fresnes, et mon avocat dit votre arrestation totalement illégale, on va faire une demande de mise en liberté. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est que Mitterrand claque. Alors là, figurez-vous que pour la première fois, l'armée du salut m'avait permis d'avoir la télé. Je voulais voir les Irlandais de Vincennes, les gendarmes en folie. Et à la place, on me sert ce grand homme, ce génie, ce femme. Tout le monde pleurait, là. C'était ahurissant. J'avais envie de tirer, moi, dans la télé. Et d'un seul coup, entre un type avec un énorme volume, je me rappelle. On était en train de me... J'étais le toubib qui me soignait. Et il fallait que je vienne aux assises le 11 au matin, le jour de deuil national, donc l'enterrement du grand homme. Et je dois dire, j'étais complètement affolé, hein, parce que je n'avais pas encore réalisé où j'étais. Moi, je rêvais à mes cocotiers, et je me demandais qu'est-ce que j'étais venu foutre dans ce truc. Et personne n'avait pris au sérieux cette convocation. Et puis, le 11, clac, on vient me chercher à 5h du matin. Il n'y avait personne, il n'y avait pas de toubib, il n'y avait personne. On m'habille, c'est-à-dire qu'on me met une veste de survêtement, et puis me voilà en chaise à porteur. Alors, le convoi... Je raconte ça un peu dans mon bouquin quand même. Le convoi sirénant sur Paris, et j'arrive, et je suis acquitté, enfin du moins relâché, sans aucun truc, sans aucun contrôle. Hein, après 15 ans, comme ça, mais alors, ça c'est un coup sur la tête épouvantable aussi, hein, j'étais encore très blessé. Et je dois reconnaître qu'on se demande qu'est-ce qu'on va faire, on ne sait plus là. Toc. Le procureur vient me voir en me disant qu'il salue un militaire de la part d'un militaire. me dit cette affaire, c'est un montage, c'est un non-lieu assuré. Bon. Et voilà. Et je pensais que la justice allait m'être rendue, que j'allais enfin connaître quelque chose. Ouais, j'ignorais ce qui m'attendait, quoi. Que je vous raconterai la prochaine fois.
Ouais, ouais. Et voilà, je trouve ces deux témoignages extrêmement intéressants parce qu'ils s'éclairent l'un l'autre. On voit bien que la société mais la société dans laquelle on nous fait vivre, elle est totalement délirante, c'est totalement incohérent, c'est des fous furieux, quoi. Je répète qu'on est dirigé par des démons. Quand on voit cette incohérence dans le comportement, une justice qui est complètement pourrie.
Enfin. Je vais te confirmer ça. C'est que quand j'ai été arrêté, moi, je n'avais strictement rien fait. J'étais président des experts comptables, j'étais président de l'Enfanum à Paris, et je faisais des réunions publiques en faveur de l'Algérie française. Donc je n'avais rien fait, j'étais pas ni clandestin ni rien. Je suis arrêté, lettre de cachet, pas de juge, pas d'avocat, pas de tribunal, rien, direction Saint-Maurice-l'Ardoise.
Un endroit célèbre.
Oui, mais après, si tu veux, je suis contraint de devenir un clandestin. Et donc là, peut-être que si j'avais été libre, j'aurais continué un petit peu à faire de la propagande, mais je ne me serais pas lancé dans la bataille révolutionnaire. Donc c'est eux qui m'ont obligé en quelque sorte à me battre. C'est en écoutant l'ami Héroulin que je me disais, mais dans le fond, c'est curieux. Et alors, après, ben, quand je me suis rendu, c'était uniquement parce qu'ils en avaient besoin. Parce que s'ils n'avaient pas eu besoin de cet expert judiciaire qui vienne soutenir ces rapports, ils m'auraient laissé dans la nature. Et là, j'ai posé mes conditions. Alors là, pas de menottes, je veux pas être jugé sur autre chose que sur mes condamnations, et je veux pas faire de prison préventive. Eh ben, le procureur a dit à mon avocat, vous pouvez dire à monsieur Descartes que c'est d'accord. Et ils ont tenu parole.
Ah bon?
Ils ont tenu parole. Ouais. Mais ils avaient besoin de moi, parce que qui allait aller au tribunal à ma place?
Alors, tu vois, plutôt que de faire du parachutisme, voilà, t'aurais mieux fait de faire de l'expertise comptable.
Voilà. C'est la moralité française.
Voilà la morale.
Mais par contre, je trouve que ça y est, vous reprenez votre accent pied-noir. Hein.
Purée
de nos autres.
Je ne l'ai jamais perdu et je refuse de le perdre, parce que c'est une marque de fabrique en quelque sorte. Mon ami elle-même.
C'est pareil, oui, dès qu'on est en train.
Vous écoutez Radio Courtoisie, Serge Debecquet, je reçois Pierre Descaves et Dominique Hérulin.
Et Goffman et le Marquis, vous avez quitté.
Et le Marquis est
pardon, très le Marquis, vous avez quitté, je vous trouve distant.
Non, j'écoute.
Ah bon.
Il sait que vous ne lui donnerez pas la parole.
Je me préparais à le faire, d'ailleurs.
Ah bon,
N'a-t-il pas fait un peu de prison pour l'OAS, lui aussi?
Oui.
S'il nous le disait dans le micro...
je réponds oui.
Décidément, je vais avoir honte.
Je pense à Jean Ferré, qui était au camp de Saint-Maurice-d'Ardoise.
Jean Ferré était avec moi, et il n'a pas voulu s'évader pour des raisons que je ne connais pas.
Est-ce qu'il faisait de la
radio à l'époque, dans le camp.
Ah, je ne sais pas. J'y suis resté qu'un mois. Hein. Moi, je me suis très rapidement évadé. Je raconte d'ailleurs comment. Et Charles a fait un très beau dessin. Ça n'a pas duré.
À propos alors, d'évasion. Pardon, je t'ai coupé.
Oui, je dis, alors je n'ai pas eu le temps de faire connaissance. Je sais qu'il faisait partie du comité de l'évasion.
Oui, c'est ça. Hein.
Il en faisait partie. Le président était le commissaire Did.
Oui, il y avait Did et De Marquet aussi.
Là, quand j'y étais, il y avait Did.
Oui.
Et donc, il y a eu cette évasion. Ferré n'a pas voulu partir.
Tu sais ce qu'on m'a dit, moi ? Non. C'est qu'il était, je crois que c'est lui qui m'a dit ça, d'ailleurs. Il était à l'époque un petit peu enveloppé. Et il craignait que de ne pas avoir la mobilité suffisante pour assurer la sécurité de ceux qui partaient avec lui.
Non, parce qu'après, il fallait courir. Et
voilà,
ça, je dois dire, j'étais avec le capitaine Murat, puisque moi, j'ai emmené les quatre qui sont évadés, sauf Jean-René Souêtre.
Ah,
et les quatre autres étaient avec moi, et Murat avait eu une éventration, peut-être que Rulin est au courant, une éventration, et il avait une cicatrice et il pouvait pas courir. Et moi, j'ai passé mes kilomètres à tirer Murat, j'étais quand même un coureur, hein. Pas un coureur comme
non,
tu
non,
penses, je vois je ton œil.
Non, pas du tout. Le monde
coureur de fond.
Coureur de fond.
Et donc. voilà.
Non, alors, on n'a pas le temps ce soir, mais un jour, Jean-Pierre Rondeau, il faudra que vous nous racontiez l'histoire fabuleuse de Claude Thène. Parce que vous avez été son ami, vous l'avez accompagné jusqu'à.
Pendant longtemps.
Non, vous l'avez accompagné jusqu'à ses derniers. Pratiquement jusqu'à son dernier soupir. Qui n'était pas un soupir, qui était un coup de feu.
Qui était le même jour que Mitran, d'ailleurs.
Tiens, c'est curieux. Alors, il a mis fin à ses jours.
À Toulouse.
À Toulouse, le jour où toi, tu.
Le drapeau de Mitterrand s'est envolé de son cercueil au moment où on me libérait de toute charge.
J'ai appelé l'ami chez qui il vivait. Enfin, je l'ai appelé lui, en pensant tomber sur lui. Et donc, elle m'a dit. Alors, je lui ai dit, mais. Et tu connais la nouvelle, je pensais faire une farce à mon copain, ouais. Et tu connais la nouvelle, Mitran est mort. Et elle m'a dit, je crois que Claude aussi. Et il est parti avec son pistolet, et il est parti se suicider. On l'a retrouvé une heure après sur une place de Toulouse où il s'était effectivement mis une balle dans la tête.
Mais il faudra que vous veniez nous raconter la jeunesse de cette
histoire. La seule chose que je tiens à dire, puisqu'on parle de suicide, c'est qu'il est parti, comme je l'ai écrit dans l'article que j'ai écrit à l'époque, c'est qu'il est parti. Il avait 60 ans, il commençait à être décrépit il était en pleine forme, mais il avait quand même des problèmes de dents, etc. Et il est parti pendant qu'il pouvait encore courir derrière ceux qui n'avaient pas vieilli, c'était Dovkar, c'était De Gueldre, qui eux, sont restés dans la mémoire avec leur âge.
Un joli mort.
Voilà. L'éditeur demande, à l'OAS, avez-vous connu Monsieur Djanikian?
Pas de nom.
Non, ce que je peux dire quand même, parce qu'il faut pas se tromper. Les gens qui étaient réellement dans l'OAS, parce que c'est comme les résistants après la guerre. Hein.
Plus le temps passe et plus il y en a. Oui.
Les anciens.
C'était des organisations clandestines, des réseaux clandestins. On connaissait une ou deux personnes, les intermédiaires qui étaient chargés d'aller contacter la base. Mais dire qu'on connaît les gens, moi j'en connais très peu, à part mes adjoints et mes.
Oui, mais c'est le vieux système qu'on rencontre partout. D'où vous arrivez? Je reviens d'un voyage aux États-Unis. Ah bon, alors vous connaissez Madame Smith. Vous avez travaillé dans quoi? J'étais dans les courses. Ah ben vous connaissez les Rothschild.
Alors la réponse est non, on ne connaît pas ce monsieur.
Mets ton doigt dans la ruche.
Par contre, si la personne laisse le nom, son nom et son adresse, et le nom bien précis, je pourrais peut-être les retrouver.
Mets ton doigt dans la ruche. C'est dis-moi qui t'a piqué.
En fait, on se méfiait plutôt des gens qui vous parlaient dans le bus ouvertement à l'époque, et moi.
Voilà, messieurs, pas de conversation privée, s'il vous plaît, parce que ça fait
surtout
du bruit.
Surtout avec un seul micro.
Voilà, j'ai donné le feuillet à Jean-Pierre, le petit message à Jean-Pierre Rondeau qui pourra entrer en contact avec cet auditeur.
Non, je les mettrai éventuellement en relation si la personne.
Mais c'est pas ce qu'il demande l'auditeur, apparemment. Simplement, est-ce que vous connaissez pour avoir l'air malin, quoi.
Bon, j'ai donné le message, on se débrouille.
Alors
une autre. auditrice, pardon, Serge, nous dit, nous sommes bien contents de vous entendre, Dominique Hérulin. Gibier d'État est un livre extraordinaire et j'encourage tout le monde à le lire.
Eh ben, bravo.
Bravo.
C'est un très bon livre. Je regrette de ne pas l'avoir lu.
C'est pour une signature, ben il faut venir au BBR.
Il faut venir au BBR.
Il sera là. Voilà.
Ouais. Permettez-moi, Serge, d'interjeter, puisque Victoria m'en donne si aimablement l'occasion, que le livre de Dominique Hérulin sera au BBR, mais également celui de Pierre Descaves, dont il vient de parler, La Salsa des Cloportes, qui est aux éditions du Alpha, donc qu'on peut trouver certainement sur dualpha.com, si on peut pas aller au BBR, qu'on peut trouver à la librairie Primatis, rue Primatis, juste derrière la mairie du 13e. Mais j'ajoute pour finir que le nouveau livre de Serge de Beketch, il sera également au BBR. C'est une question.
Il en est fortement question.
Il sera prêt. Attends. Oui. Le livre de notre divin marquis, ses souvenirs, ses mémoires seront là. Et même, ajouterais-je immodestement, puisque personne ne va penser à le faire, le mien, ta femme tous les jours, je vais en apporter un carton entier, c'est 10 euros seulement. Donc venez vite l'acheter au BBR.
Moins cher que les autres.
Voilà. Si vous avez la flemme d'envoyer 10 euros à mon ordre chez SDB, 4 place 36, 75 010, Paris.
Est-ce que les timbres sont acceptés?
Je dois dire encore quelque chose sur le livre de Pierre, parce qu'on pourrait penser à travers notre conversation qu'il n'a été question que de l'OAS. Non, c'est pas un récit d'anciens combattants. Il y a beaucoup de chapitres qui sont consacrés à des réflexions sur la situation actuelle du front.
Si 450 pages national, quand même. Voilà.
C'est la destruction de la nation française qui est en cours. Je le démontre à travers des arguments juridiques, des études de textes, de documents, et surtout la troisième partie. J'engage les patriotes à résister, parce que c'est pas fini, hein. La guerre, elle commence maintenant. Si Le Pen n'est pas élu président de la République, faut s'attendre à des grandes difficultés. Et à ce moment-là, il faudra se battre. Oui.
Alors, je dois dire que je reçois des messages. Bon,
oui.
Notre ami Dominique s'est laissé aller à une petite vacharnise, mais sans conséquence. Donc très mollet, perd tous ses procès. Bien sûr que c'est pas vrai.
Un
auditeur nous dit, perd tout. C'est pas vrai. C'est pas le code, bien sûr.
C'est une
généralisation carrément abusive.
Oui. On dit toujours ça d'un avocat en riant, d'une avocate mal attachée au barreau.
Pour que les choses soient bien claires, j'ai la plus grande admiration pour Trémollet. J'ai beaucoup d'amitié et de sympathie. Non, d'amitié, pas de sympathie, parce que ça veut rien dire.
C'était pour rire.
Et donc,
c'est ma fourche calanguée. C'est ma fourche calanguée.
Et je voudrais ajouter une chose, c'est que quand Georges Paul Wagner a trouvé que le moment était venu de rejoindre son corps d'origine, c'était de monter au ciel, je me suis dit, pour les amis de présence, ça va être dur, parce que une intelligence pareille, une plume pareille, ça se trouve quand même pas sous le pied d'un cheval. Eh bien, ils ont eu une idée vraiment génial que je regrette de ne pas avoir eu avant eux. Ils ont demandé à Trémollet de prendre la succession de Wagner. Et on ne sent pas la différence. Hein. L'esprit est très légèrement différent, mais il y a une qualité de pensée.
Il y a une école de pensée, ouais, c'est
vraiment
évident.
Donc lisez présent, pas seulement pour les papiers de Maître Trémollet de Villers, aussi, si vous voulez savoir ce qui se passe dans l'Église en ce moment, Madiran nous fait une série de papiers d'une pertinence et d'une perception extraordinaire. Et je signale d'ailleurs que présent, qui vient de se voir refuser une fois de plus, de façon inique par la crapulerie du système, ce qui est donné à des journaux comme Libération, comme L'Humanité.
Le tonneau des Danaïdes, ce sont des millions. On leur refuse pas la même chose, Serge. Ils ont droit à 40 000 euros d'aide à la diffusion, alors qu'on déverse des millions d'euros dans le tonneau des Danaïdes que sont Libération, Le Monde et L'Humanité.
Alors non seulement on leur refuse les 40 000 euros auxquels ils ont droit, mais comme ils ont l'impudence d'insister en réclamant, on leur colle 1 500 euros d'amende pour leur faire comprendre que la justice n'est pas en fait, pour rendre justice aux pouilleux. Alors, j'invite les auditeurs
au moins ceux qui seraient déjà abonnés au Libre Journal, de s'abonner à présent ou d'aider présent. Les autres, commencez par vous abonner au Libre Journal, puis s'il vous reste un peu de sous, vous pouvez toujours aider présent aussi.
On est toujours dans le vieux système de la justice sera rendue, mais pas l'argent.
Pas l'argent. Qu'est-ce que vous avez fait comme...
Oui, d'un seul coup, j'ai vu l'horreur de ce que j'ai pu dire.
Ouais.
Surtout qu'on est entre amis.
En plus, je veux dire, si très malade fait un procès, celui-là, il ne va pas le perdre.
Non, parce que, de toute façon, il y a d'autres armes que la parole. Mais de toute façon, ce n'est pas ça. Ce que je voulais dire, effectivement, c'est d'être, de ne pas être français. Quoi. Je ne suis pas là. Donc, il m'arrive comme ça de déraper.
À force de
un simple truc. Parce que d'un seul coup, je dis, oh, j'arrive, je mets la télé, je tombe sur le procès Touvier, je vois Adrien Ouellet. Que je sache, ça n'a pas été gagné. Bon, alors,
oui, mais enfin, là, après,
on me parle, le mien, il n'a pas été gagné. On peut dire que je suis libre.
Voilà, alors, vous enfoncez, là.
Celui de Marc, comment s'appelle le préfet, là, Marciani, etc.
Oui, mais il remarquera une chose quand même. Oui. Il s'agit toujours de cette affaire qui était déjà jugée. C'est évident.
On ne pouvait pas
ne pas te condamner parce que c'était tout le système qui se ridiculisait.
Oui.
Touvier. Quand on lit ce procès est totalement inique.
Ah oui.
Il a été jamais on a vu ça. Il y a un principe de droit qui on ne juge pas deux fois la même cause. Là, ce principe qui est fondamental qui était dans le droit romain a été bafoué. Pompidou était intervenu pour gracier Touvier. On a annulé ses grâces. Enfin, c'est du délire, c'est de la folie.
C'est du délire,
aucun avocat au monde ne pouvait gagner une cause. Comme ça. Quant à Mariani, il s'agissait de le tuer socialement. Il faut lire, d'ailleurs, dans le bouquin de Branca et Folk sur Villiers, il y a un chapitre dans lequel il est évoqué la personnalité de Mariani, les relations que Villiers Pasqua avait avec lui. Et on se dit, effectivement, ce type-là que j'ai rencontré quand j'étais à Toulon... Il est tellement atypique, il a été mêlé à tellement de choses et tout, que s'ils avaient pu le faire assassiner, ils l'auraient fait assassiner. Et n'ont pas pu le faire assassiner avec des balles de 357, ils l'ont tué socialement. Et dans des conditions qui révoltent l'homme de bien, quoi. Enfin, il faut bien dire les choses.
Dominique, serez-vous au BBR? Oui, quand?
On vient de le dire.
Mais à quelle heure pour pouvoir vous parler? Et je vous donne le nom et l'adresse et le téléphone du monsieur qui souhaiterait vous entretenir.
Eh bien, ma foi, voilà. je vous donnerai ça. Normalement, j'y serai plutôt samedi. Hein,
vous tendez... Alors, dimanche, je peux me faire casser la gueule, j'aurais pu le faire.
Ah, ben non, je suis obligé de. Ben, d'abord, je pourrais me faire casser la gueule, moi aussi, mais je vais venir avec mon Yushaku pour défendre.
Serge, vous tendiez le micro.
Oui, mais je ne dire qu'un mot. Par courtoisie, je me tairai pour laisser la place aux autres. Voilà.
Non, mais moi j'ai une question à vous poser.
Ah bah alors, voilà,
il nous reste que quelques minutes. C'est maintenant ou jamais.
Il reste cinq minutes pour que vous nous,
ah bon
nous fassiez sourire et que vous nous détendiez.
Ah oui, mais avec quoi vous fassiez,
avec vos dernières aventures parisiennes.
À Lourdes.
À Lourdes, vous avez qu'à lire le Libre Journal. Et puis c'était pas une aventure tellement rigolote, tout compte fait, de constater que c'est plus qu'un vaste commerce et qu'il faut s'enfermer à l'hôtel pour prier tranquillement.
Et vous m'avez raconté qu'il y avait un type qui était plus vulgaire que Bigard.
Ah, c'est Philippe Cobert. Philippe Cobert qui se produit au théâtre du Rond-Point. Et, non, mais Bigard n'est pas vulgaire.
Non, mais
il est paillard.
D'ailleurs, oui.
Et alors, évidemment, les mêmes qui se lèvent et font des standing ovations à Philippe Cobert.
Les bobos. Oh,
les bobos. Qui sont des trucs extraordinaires. Oui, je dis standing ovation. Oui. Parce qu'on est
dans...
Voilà. Non, puisqu'on est dans le déconnage, je vais dire au déconnage jusqu'au bout. Il reste plus que deux minutes, merci. Et c'est les mêmes qui trouvent que Bigard est vulgaire, grossier, etc. Ce qui n'est pas vrai. Bigard tape en dessous de la ceinture, d'accord. Mais bon, c'est un créneau qui plaît. Tandis que l'autre, qu'on acclame comme un grand acteur parce qu'il a joué dans la cour à Avignon, imite pendant une heure et demie l'accouchement de sa mère quand elle l'a mis au monde. Alors il a le cul tourné vers la salle avec les commentaires, les bruits, etc. Et ça, ça en fait un triomphe. Et c'est Bigard qui est vulgaire. Ben, je vous laisse juger.
Voilà. Alors, si vous aimez aller au théâtre, est-ce que vous êtes allé voir Dieudonné, au fait?
Oui, j'y suis allé, mais j'avais déjà vu bien avant. Hein.
Ouais.
Ah, c'est bien, c'est en scène. Ça, moi, oublions un peu ce que ça peut véhiculer comme enquiquinement, mais le personnage en scène, c'est une bête de scène. Il y a une diction parfaite, il y a un œil, et ça bouge bien.
Un vrai talent.
Après, ce qu'il raconte, moi, je peux pas dire que ça me déplaise, mais bon, ça ne me plaît pas. tout le monde.
Et est-ce qu'on peut dire qu'il veut déjeuner avec nous ou est-ce que c'est
non.
une gaffe?
Non,
c'est pas la peine d'aggraver son cas.
Non, je vois pas.
Excusez, je tiens à préciser que c'est un de mes lecteurs. C'est quelqu'un qui a commandé mon livre.
Attends, on va pas nous faire le reproche d'aller déjeuner avec des Noirs. On nous accuse de tellement de choses déjà.
Oui, mais il n'est pas 100%. Hein.
Comme notre conscience. Il est breton aussi. Oui.
Comme si avec le breton. Bon, arrêtons de dire des bêtises. Parce que, alors, c'était du deuxième degré, je signale.
Ah, hein. Oui, oui, là, faut se méfier.
Turpe S. Matiri.
Au premier degré, trois petites annonces.
Oui,
allez-y. La messe de Saint-Hubert avec trompe sera célébrée à Saint-Nicolas-du-Chardonnay dimanche 12 à 10h30. Bon, les participants au déjeuner de Radio Courtoisie pourront s'y rendre très facilement.
Et pour la LI.
Alors, mardi 14 novembre à 20h, au Centre Saint-Paul, 12 rue Saint-Joseph, Paris 2e, conférence de Henri-Christian Giraud sur le thème 1956, Budapest, révélation sur la révolution hongroise. Et puis, l'Association française des juristes catholiques vous informe que la messe annuelle des juristes aura lieu le mercredi 22 novembre à 18h30 à Saint-Nicolas-du-Chardonnay et sera suivie d'un dîner. Inscription auprès de Maître Cap, 57 avenue des Ternes, Paris 17e, site internet juriste au pluriel .cato.free.fr.
Un mot. Le président Le Pen a dit tout le bien qu'il pensait des animaux. Eh bien, dimanche dernier, à la messe pendant laquelle on bénit les animaux, on les bénit, on les baptise pas, hein, faut bien insister, les renseignements généraux m'ont dit qu'il y avait 1253 personnes. Voilà.
Ils ont compté les pattes et ils ont dit...
Non, ils ont compté les gens. Donc, ça allait dans le sens du président Le Pen.
Alors, jeudi 16 novembre à 20h30, retenez bien cette date... rue 21 rue Campagne Première, métro Raspail, chez la mère agitée, moyennant la modique somme de 30 euros, vous pourrez dîner et participer à une œuvre qui me paraît de salubrité publique, c'est la réduction du stock de Beaujolais dans notre pauvre pays. Voilà, puisque c'est le Beaujolais nouveau, et ça sera animé par le chœur Montjoie-Saint-Denis. Ah. Alors déjà, quand ils sont à jeun, ceux-là, c'est pas mal, mais je peux vous dire qu'une soirée Beaujolais, c'est vraiment quelque chose.
Est-ce que tu pourras m'envoyer une bouteille au Paraguay?
Pas de problème, on ne sera pas nécessaire. Jeudi 16 novembre, 20h30, 21 rue Campagne Première, Paris.
Il nous reste
14e.
30 secondes pour un dernier rendez-vous. Les BBR, 10, 11 et 12 novembre, au parc des expositions du Bourget, il y a, on l'a déjà dit, mais on le répète, des parkings grands comme une piste d'aérodrome, et c'est le RER B, et de la gare du Bourget, il y a des navettes gratuites, moi je les prends, et je peux vous garantir qu'elles sont fréquentes et confortables. Tous au BBR, les 10, 11 et 12 novembre prochains.
Et vous êtes ici sur la radio de la francophonie. Je maintiens ma prononciation. Ça, c'est pour l'auditeur qui ronchonne.
Ah bon. Eh bien, écoutez, je crois que nous avons fait le tour de la question. Je vous dis à la semaine prochaine, je crois.
On boucle le libre journal jeudi prochain.
Alors, donc, c'est pas la semaine prochaine.
Ah, dans 15 jours. Oui. Pardon, excusez-moi, j'ai fait un appui. Ah,
dans 15 jours. Vous avez sur le truc des contrats en déshérence, là?
Oui, alors je voulais en parler, mais bon, on en reparlera. Hein. Oui, bien sûr, il est dans le journal. Merci, messieurs, de nous avoir accompagnés jusqu'à cette heure avancée de la nuit. Ah, dans 15 jours. Que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris, sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 8 novembre 2006 de 18h à 21h, en différé jeudi 9 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par France.